Bonsoir, mes amis. Levons-nous un instant maintenant pour prier. Courbons la tête. Notre Père Céleste, en écoutant ce beau cantique, nous songeons, Seigneur, à que tu es près de nous. Et nous te prions de nous recevoir ce soir, Seigneur, comme tes enfants, de pardonner tous nos péchés et nos transgressions, et de nous donner de tes bénédictions, car nous sommes un peuple dans le besoin. Et en cette heure glorieuse que nous sommes en train de vivre, et nous constatons que ce monde s'enfonce chaque année davantage dans les ténèbres, et que la venue du Seigneur prend de plus en plus d'éclat, alors qu'il se révèle dans sa parole et dans sa manifestation. Nous sommes revenus ce soir, Seigneur, pour essayer, au cours de cette réunion, et pour te prier de nous ouvrir, Seigneur, ce troisième sceau de ce livre, pour que nous puissions savoir, que nous sachions quoi faire, et comment vivre, et comment être de meilleurs chrétiens. Je te prie, ô Dieu, d'amener tous ceux qui ne sont pas chrétiens ici ce soir, à prendre conscience qu'ils ont besoin de toi. Accorde-le. Et je prie, Père Céleste, que chaque chrétien né de nouveau prenne conscience qu'il doit vivre plus près de toi que par le passé, pour que nous puissions tous être dans cette unité de l'amour chrétien et de la foi. Permets que tous les malades parmi nous soient guéris ce soir, Seigneur. Ils se rendent bien compte qu'ils ont besoin de toi. Et je te prie, Père, de bénir tout ce qui sera fait ou dit, pour ton honneur et pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Eh bien, ce soir encore, nous nous sommes rassemblés de nouveau pour ceci, ce mercredi soir de la semaine. Et nous avons confiance que le Seigneur répondra ce soir de grandes bénédictions sur sa parole. Aujourd'hui, j'ai étudié, comme d'habitude, en essayant de voir quelles seraient les choses qu'il serait le plus approprié de dire, et la chose, comment le dire, et en comptant sur le Seigneur, pour qu'il me donne l'interprétation et la signification de cette parole écrite. Et je lui suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette semaine, ou nous, de l'ouverture de ses sceaux. Et maintenant, peut-être que ce serait bien si dimanche matin, vous savez, très souvent, nous ne voulons pas être mal compris. Mais vous savez, c'est ce qui arrive. Et donc, peut-être que dimanche matin, si tous ceux qui ont une question qui les préoccupe sur le sujet veulent bien la mettre par écrit et la déposer ici sur la chaire samedi soir. Et comme ça, je pourrai voir de quoi il s'agit. Et puis, je tâcherai de vous en donner la réponse dimanche matin, si le Seigneur le veut. Je pense qu'il vaudrait mieux faire ça plutôt que ce que nous avions projeté, parce que parfois c'est mal compris, vous savez. Et alors, de cette façon, il vaudrait mieux que je mette ça au clair, vous savez, que ce soit exactement comme ce doit être. En effet, parfois, là, quelqu'un a téléphoné aujourd'hui et a dit a téléphoné pour savoir si c'était vrai que quand l'enlèvement se ferait, il n'y aurait qu'une personne de Jeffersonville et une de New York et que toutes les autres viendraient d'outre-mer. Alors, vous voyez, c'est tout simplement mal compris. Et puis, quelqu'un a dit que si samedi soir, le Seigneur nous faisait connaître le dernier sceau, alors Jésus serait ici dimanche matin. Vous voyez, alors vous voyez, ce n'est pas ça. Et non, nous ne savons pas. S'il y en a qui vous disent qu'ils savent quand il va venir, vous savez qu'ils se trompent pour commencer. Parce que ça, personne ne le sait. Mais nous voulons vivre aujourd'hui comme si c'était pour tout de suite. Je vais vous surprendre un peu pendant un instant, alors préparez-vous. Je crois que Jésus va venir dans moins de 3 minutes de son temps. Vous savez combien cela représenterait? À peu près 35 ans. Voyez-vous, 1000 ans ne représentent qu'un jour pour lui. Vous voyez? Alors, quand vous entendez l'apôtre qui dit ici, « Le temps est proche », ici, le temps est proche. L'apôtre a dit cela dans l'Apocalypse. Vous savez, il y a combien de temps de cela? C'était seulement hier pour Dieu. Ça ne fait même pas encore 2 jours. Et vous voyez, si on est à moins de 3 minutes de sa venue, vous voyez, ce qui représenterait à peu près 30 ans pour nous, ou quelque chose comme ça. Alors regardez combien ce que 3 minutes représenterait pour lui. Il est déjà en train de se lever pour venir. Alors nous, vous, parfois que vous lisez ici, il parle selon les termes de la parole. Voyez-vous, pas selon nos termes à nous. Et puis, si je savais qu'il allait venir demain soir, j'étudierai et je lui demanderai de me donner le message pour le 4e saut. Et je viendrai ici le prêcher quand même. Voyez, je veux faire tous les jours exactement ce que je ferais s'il venait. Et je ne connais pas de meilleur endroit que d'être trouvé ici, à mon poste. Vous voyez, à mon poste. Donc, nous continuons simplement à vaquer à nos occupations jusqu'à ce qu'ils viennent. Parfois, quand nous ne faisons que lire, et là, faites bien attention. Et quand vous lirez, recevrez les bondes, écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisirez en écoutant la bonde, parce qu'ils ont réécouté les bondes, elles sont vraiment très claires. Alors, vous saisirez mieux là-dessus. Maintenant, j'espère que tout le monde ici est amoureux de Christ ce soir, que tout le monde l'aime. Je vais vous dire ce qui embrouille les gens. C'est quelqu'un qui arrive et qui n'a pas entendu la première partie de la réunion. Vous voyez, alors ils arrivent et ils vous entendent vous référer, revenir sur un point, et alors ils prennent ça, ce qui est dit, sans avoir entendu la première partie. Alors ils ne s'y retrouvent plus, voyez-vous, à ce moment-là. Et ils pensent vraiment que quelque chose d'autre a été dit. Mais ce n'est pas ça. Donc, si vous avez une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, vous n'avez qu'à noter ça sur un bout de papier. Venez le déposer ici, n'importe quand, d'ici à samedi soir. Et je vais essayer dimanche matin de, si vous ne savez pas trop quoi penser, dites, « Eh bien, je me demande ce que ceci voulait dire au juste. Je n'ai pas bien compris. Vous savez ce que je veux dire. Alors, je tâcherai de vous en donner la réponse dimanche matin, si le Seigneur le veut. » Maintenant, ce soir, nous allons encore lire dans cette bonne vieille parole bénie, au chapitre 6, et nous abordons ce soir le 3e sceau, et c'est le verset 5, les versets 5 et 6. Et demain soir, nous aurons terminé les 4 cavaliers, le cheval blond, le cheval roux, le cheval noir et le cheval d'une couleur pâle. Et je veux dire ceci. C'est que chaque fois, et encore ce matin, je me lève très très tôt, et je vais en prière avant que tout s'éveille, et je continue simplement à prier toute la journée. Mais ce matin, de bonne heure, le Saint-Esprit est venu là où je me trouvais. Et clair comme le jour, j'ai vu cet autre sceau s'ouvrir, là, parfaitement. Alors, il m'entend, je le sais, et je suis très reconnaissant. Maintenant, souvenez-vous-en, quelque chose est en train de se passer, que j'espère que vous saisissez, voyez, que quelque chose est en train de se passer. J'aimerais bien tester cette église un jour pour voir si elle pourrait vraiment capter quelque chose avant que cela ait réellement eu lieu. Maintenant, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Et maintenant, que le Seigneur nous aide. Maintenant, au verset 5, quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, « Viens, vois, je regardais et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Maintenant, reprenons un petit peu le contexte et en prenant les sceaux que nous avons vus. En effet, comme ça a été le cas pour les actes de l'Église, eh bien nous essayons de reprendre le contexte, de montrer le chevauchement pour que vous puissiez... En fait, les âges sont comme ça dans l'Écriture. L'un chevauche l'autre, comme ça. C'est comme monter à une échelle, et monter une marche plutôt. L'une descend vers l'autre et revient par derrière, comme ça, alors qu'on monte une marche. Et maintenant, ces sceaux, c'est un le livre de la rédemption, scellé. Tout le monde comprend ça? Et ce livre, il est scellé de sept sceaux. C'est un livre scellé de sept sceaux, voyez? Et maintenant, souvenez-vous, là, nous vous l'avons décrit, tiré de Jérémie et tout. Là, ils écrivaient comme ceci, sur un morceau de document, ou de papier plutôt, ou pas de papier, mais c'était une peau. Et ils l'enroulaient comme ceci. Bon, ça, et puis ils laissaient dépasser le bout comme cela. C'est ce qui en indique le contenu. Et le suivant se place de la même manière. Il s'enroule de la même façon, enroulé comme cela. Et au bout, ici, ça se détache comme cela, et c'en est un autre qui dépasse. Eh bien, c'était là le livre scellé de sept sceaux. Or, c'est seulement récemment que nous avons des livres comme ceci. Autrefois, les livres, c'était des rouleaux. Ils étaient enroulés. Et quand ils voulaient un sujet ou quelque chose, par exemple, si la Bible était roulée et que vous vouliez lire le livre d'Ésaïe, il fallait tourner jusqu'ici, à Ésaïe, et le dérouler comme cela pour le lire. Et ceci, c'est un livre de rédemption scellé de sept sceaux. Et maintenant, nous voyons que l'agneau s'avance, qu'il prend le livre de la main de celui qui est assis sur le trône, qu'il brise les sceaux, qu'il rompt les sceaux pour le peuple. Et les quatre êtres vivants qui sont là, que nous avons étudiés dans les âges de l'Église, les mêmes quatre êtres vivants, on les voit tout au long de l'Écriture, et ce sont eux qui annoncent l'ouverture de ces sceaux. Bon, et nous voyons que c'est un livre de rédemption. Ensuite, on a fait un retour en arrière pour parler du parent rédempteur. Nous l'avons examiné pour voir quelle était son œuvre. Et maintenant, pendant toutes ces années, Christ a fait l'œuvre du parent rédempteur. Maintenant, que tous ceux qui comprennent ça disent « Amen ». Il a fait l'œuvre du parent rédempteur. Mais il viendra un temps où l'œuvre de la rédemption sera terminée. Et quand l'œuvre de la rédemption est terminée, alors il quitte le trône de Dieu où il est assis en ce moment. Mais ce n'est pas son trône. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Ce n'est pas son trône. Celui-là appartient à Dieu, l'Esprit. Christ, l'agneau, il ne lui appartient pas. Il est le Dieu incarné, vous voyez, qui est le même Dieu incarné. Donc, il se lève du siège. D'abord, l'annonce a été faite pour demander qui est capable de venir à prendre ce livre de la rédemption. Voyez-vous, en effet, le plantier de la rédemption, depuis Adam, tout ce qu'Adam avait perdu. Rien n'était perdu avant Adam. Et après Adam, tout était perdu sur la terre. Et toute la création de la terre était perdue. Et tout est tombé avec Adam, a franchi l'abîme, de sorte que personne ne pouvait revenir, aucun moyen du tout. L'homme, quand il a péché, il ne s'est laissé aucun moyen de retour. Et alors, quand cette question a été posée, Jean le révélateur, là, le prophète Jean, il a vu cela en vision. Il n'y avait aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, aucun homme sous la terre, ni personne, qui soit digne même de regarder le livre. Voyez, maintenant, pensez-y un peu. Ensuite, l'agneau s'avance, et il prend le livre. Or, on avait demandé à Jean de ne plus pleurer. Il avait dit, « Voici le lion de Juda a vaincu, et lui, il peut prendre le livre et l'ouvrir. » Alors, il s'est tourné pour chercher un lion, et il a vu un agneau. L'ancien avait appelé, il avait dit, « Un lion a vaincu !» Mais, quand il est allé voir, c'était un agneau qui sortait du trône. Maintenant, il ne l'avait pas remarqué auparavant. Pourquoi ? Il avait été là-bas, en train d'accomplir son œuvre de médiation. En effet, il faisait couler son sang pour le peuple. Il intercédait pour le peuple, jusqu'à ce que la dernière âme, qui avait été inscrite dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, soit entrée. Il n'y en aura qu'un certain nombre là, et c'est tout. C'est tout. Les autres ne voudront même pas entrer. Ils n'ont aucun désir d'entrer. Et alors, à ce moment-là, quand cette dernière âme entre, à ce moment-là, le temps de la rédemption est terminé. Alors l'agneau s'avance pour faire valoir ses droits sur ce qu'il a racheté, c'est-à-dire toute la création. La terre et tout lui appartient. Voyez, il a racheté tout cela par son propre sang. Et quand il s'est avancé pour prendre ce livre et l'ouvrir, oh, eh bien, ils étaient... Jean n'a plus pleuré. Il a regardé, et cet agneau, c'était un agneau immolé. Il avait déjà été tué, mais il était de nouveau vivant. Et là, nous avons vu qu'un agneau immolé, c'est un agneau sanglant. Il saigne de partout. Il a été immolé. Et, après avoir été immolé, il était ressuscité. Il était assis sur le trône, disons, derrière le trône, comme ceci, en train d'intercéder pour toutes les âmes qui viendraient. Et puis, quand la dernière est arrivée et que ça a été terminé, Dieu détenait encore le livre de la rédemption, voyez. Or, en ce moment, il accomplit simplement l'œuvre du parent, comme Boaz, qui est allé là-bas, alors que Ruth est restée assise à attendre, jusqu'à ce que Boaz, je veux dire, Boaz ait accompli l'œuvre de rachat du parent. Vous souvenez-vous que j'ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps? Ruth qui glanait, et Ruth qui faisait telle chose, ainsi de suite. Et la dernière chose, c'était Ruth qui attendait. Vous souvenez-vous que j'avais montré que c'était un type de l'Église? Pendant que Boaz est allé là-bas accomplir l'œuvre de rachat du parent, il a accompli, il a ôté son soulier, il a rendu témoignage et il a racheté Naomi. Et c'est comme ça qu'il a obtenu Ruth. Bon, donc Ruth ne faisait qu'attendre parce qu'elle avait déjà fait ses œuvres. Elle avait fait toutes ces autres choses, mais maintenant, elle attendait. Et alors, quand l'Église attend, elle se repose. Beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, dans la poussière de la terre, pendant qu'il accomplit son œuvre de parent rédempteur. Or, le monde continue toujours à empirer, et le péché s'amoncelle, et la maladie, et les soucis, et la mort, et le chagrin. Les hommes qui sont sans Dieu, et les femmes qui sont sans Dieu, tombent comme des mouches. Ils sont rongés par le cancer, et tout le reste. Alors qu'il n'arrive pas à s'approprier suffisamment de foi pour tendre la main et saisir cela. Maintenant, remarquez, mais ensuite, après que tout était terminé, que sa média, que son intercession a été accomplie, il s'avance, il prend le livre de la main de celui-là. Et alors Jean et tout dans le ciel, et se sont mis, les âmes sous l'autel, se sont mises à crier. On va retrouver cela dans le sixième sceau. Et comme ils se sont réjouis, et ils se sont prosternés, les anciens, et ils ont répondu les prières des saints, et les âmes sous l'autel se sont écriées, « Tu es digne, parce que tu nous as rachetés pour Dieu, et nous allons retourner sur la terre pour y vivre comme roi et sacrificateur. » Oh, il y a eu beaucoup. Jean a dit que tout le monde dans le ciel, tout sous la terre, tout l'a entendu louer Dieu à ce sujet. Jean doit avoir trouvé son nom écrit là, vous savez, tout ce temps-là. Puis il a dit, il est digne de prendre le livre de la rédemption. Maintenant, il n'appartient plus au juge, il appartient au rédempteur. Et celui-ci a accompli l'œuvre de la rédemption. Maintenant, il va montrer à l'Église ce qu'il a fait. Amen. Voyez? Alors, il prend. Seulement le livre est fermé. Absolument personne ne savait. Il savait que c'était un livre de rédemption qu'il y avait là. Mais il doit être révélé dans les derniers jours. Selon Apocalypse 10, le septième ange en recevra le message. En effet, il y est dit qu'au temps où le septième âge de l'Église sonnera, le septième ange, quand il sonnera, tous les mystères de Dieu seraient menés à terme quand il sonnera. Ensuite, après que cela a été révélé, l'ange est descendu du ciel, lequel était Christ. Maintenant, souvenez-vous, cet ange-ci est sur la terre, un messager. Et là, Christ descend. On le voit au chapitre 10 de l'Apocalypse. Il pose un pied sur la terre et l'autre sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, ses yeux comme, et ses pieds comme du feu, et ainsi de suite. Il lève sa main et il jure par celui qui vit au siècle des siècles, sur le trône, qu'il n'y aura plus de temps. Et quand il fait ce serment, sept tonnerres font entendre leur voix. Et l'écrivain, c'est-à-dire Jean, quand il a été ravi, il était censé écrire ce qu'il voyait. Il a commencé à écrire. Il a dit, Ne l'écris pas, parce que, n'écris pas cela. C'est quelque chose qui n'est pas. Il a dit, scelle-le. Donc quoi? Scelle-le. Ne le dis pas. Vous voyez, cela doit être révélé. Mais ce n'est même pas écrit dans la parole. Et alors, quand il a commencé à ouvrir les sceaux, nous constatons qu'ils étaient tous difficiles à comprendre. Voyez, quand il a ouvert le premier sceau, il a pensé, « Bon, là, il va être dit, et il arrivera qu'un tel montera sur le trône, et que telle personne fera ceci, et que ceci fera cela. » Mais à ce moment-là, voici qu'un cheval blanc est sorti, monté par un cavalier. Eh bien, il avait un arc à la main, et au bout d'un certain temps, une couronne lui était donnée, a-t-il dit. C'est tout. Et l'agneau s'est encore retourné, et il a détaché un autre sceau, et là, il est sorti, un cavalier sur un cheval roux. Et il avait une épée lui était donnée, et il allait faire la guerre. Une grande puissance lui était donnée, pour enlever la paix de la terre, et qu'ils s'égorgent les uns les autres. C'était assez, encore là, quelque chose de mystérieux, n'est-ce pas, quand il l'a ouvert. Ensuite, ça continue, et il a dit qu'au jour qui vient juste avant ces sept tonnerres, tous les mystères ici sont révélés. Maintenant, regardez. Ensuite, on a vu, au cours de notre étude, que tout au long des âges, nous avons eu des réformateurs, pas des prophètes, des réformateurs. Et chaque fonction comporte son propre travail. C'est comme un homme qui est téléphoniste. On ne peut pas dire qu'il est électricien. Il pourra peut-être faire des petits travaux d'électricité. Et comme si un homme est ouvrier de ligne, eh bien, certainement qu'il... Un homme dont le travail est de creuser les trous pour les poteaux et qui n'a jamais travaillé à poser des lignes. Il ferait mieux de ne pas toucher aux lignes. Mais il pourra peut-être faire quelques petits travaux de rafistolage, quelque chose comme ça. Mais le moment où la vraie chose doit être révélée, au dernier jour, celui de la dernière partie de l'Église, c'est le moment où Dieu a dit qu'il nous enverrait, selon les Écritures, et nous avons examiné cela à fond, il a prédit que l'esprit d'Élie reviendrait dans quelqu'un. Bon, je pense que cela a été expliqué très clairement. Et nous nous attendons à ce que ça arrive. Quelque part, une personne ointe doit venir dans les derniers jours. Bon, vous entendrez beaucoup de fanatiques et tout le reste, mais ce n'est que pour essayer de... C'est le diable qui essaie de détourner les gens du vrai quand il arrivera, vous voyez? Mais ce sera très bien identifié. Vous savez ce qu'elle y était. Aussi, soyez attentifs à ça, et vous saurez. Et alors, Or, les élus seront, pas les autres, eux certainement pas. Ils passeront à côté d'un million de milles, comme nous avons vu tout ça, et nous avons montré qu'ils n'ont pas reconnu Jean, ils n'ont pas reconnu Élie, ils n'ont pas reconnu Jésus, tout le long, ils ne les ont pas reconnus. Et ils vont faire la même chose, parce que la Bible a dit qu'ils le feraient. Voyez, alors, à ce moment-là, ce sera très humble, ce sera tellement simple, c'est ce qui fera que les gens passeront à côté. C'est trop simple pour eux. Nous voyons, et ça, c'est toujours quand les gens deviennent intelligents et instruits, et qu'ils en savent très long, alors c'est justement ceux-là qui passent à côté, vous savez. Voyez, Jésus n'a jamais pris ce genre de personnes-là pour être ses disciples. Il a pris des gens sans instruction, des pêcheurs, personne qui soit lié aux églises du temps et tout le reste. Il est allé chercher des hommes ordinaires, des percepteurs, des paysans, des pêcheurs, et ainsi de suite, pour accomplir son travail. Voyez, en effet, eux, ils savent qu'ils ne sont rien. Alors, ils peuvent faire quelque chose d'eux, voyez-vous. Tant qu'ils continuent à savoir qu'ils ne sont rien, alors Dieu peut agir. Mais quand ils se mettent à penser qu'ils savent quelque chose, alors vous ne connaissez rien de ce que vous devriez connaître, dit la Bible. Et donc nous constatons cela. Et maintenant nous voyons alors que ces mystères doivent être révélés. Pourquoi donc ces autres hommes, Wesley, Luther et ces grands réformateurs qui ont apporté la justification, la sanctification et l'âge de Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit et tout, pourquoi n'ont-ils pas saisi ces messages? Pourquoi ne les ont-ils pas reçus? Parce qu'ils étaient des réformateurs, voyez? C'est comme, regardez-le de l'autre point de vue, il y en a qui sont venus et qui avaient reçu autorité comme roi, mais qui n'étaient pas des rois, voyez? Voyez, il faut bien remarquer la terminologie de la Bible pour toute chose. Voyez, maintenant, regardez bien, mais ça, la raison pour tous ces points en suspens, la partie mystérieuse de la justification, la partie mystérieuse de la sanctification, la partie mystérieuse du baptême du Saint-Esprit, et pourquoi quelle sorte de... Ève a-t-elle mangé une pomme? Ou a-t-elle mangé une grenade? Ou quelque chose comme ça? Voyez? Est-ce que la semence du serpent, c'était quoi? Est-ce que c'est le baptême au nom de Père, Fils, Saint-Esprit? Ou bien au nom du Seigneur Jésus qui est le bon? Des centaines de ces points ont été laissés en suspens. Voyez? Et alors, à la dernière heure, cet homme doit venir révéler la chose. Vous voyez, prendre les Écritures, ce sera très bien identifié. Regardez, oui monsieur, et maintenant, ce ne sera pas quelque chose de grandiose là. On s'attendrait, en regardant la Bible, à quelque chose de grand. C'était combien plus grand quand Jean devait se présenter là-bas et baptiser? Pensez-y un peu, là. Les prophètes, en remontant aussi loin qu'Ésaïe, Malachie et les autres, ils avaient tous parlé de lui, de sa venue. Et quand il est venu, ce n'était qu'une espèce de vieux solitaire sans instruction, avec le visage couvert de barbe et les cheveux hérissés comme une chenille, enveloppé dans un vieux morceau de peau de mouton, sans aucune instruction. Il n'est même pas allé un seul jour à l'école, pour autant que nous le sachions. Voyez? Et là, il est sorti du désert, absolument personne ne l'a invité derrière sa chair, et il se tenait là, au bord du Jourdain, et il a commencé à appeler les gens à la repentance. Vous pouvez vous imaginer. La Bible disait que ce jour-là, ce serait tellement glorieux que tous les lieux élevés seront abaissés et que tous les lieux bas seront élevés. Oui, monsieur. Et tous les lieux raboteux seront aplanis. Eh bien, je peux me représenter les gens là-bas. Ils pensaient que Jean sortirait, ou ce grand précurseur de Christ là, et qu'il viendrait aplanir tout le désert et le regazonner. Voyez? Oh, j'imagine qu'ils s'en étaient fait une idée bien arrêtée, à peu près comme ils le font aujourd'hui. Mais c'était tellement humble que même les apôtres ne l'ont pas reconnu. Ils ont dit, « Eh bien, pourquoi l'Écriture dit-elle si le... Tu vas là-bas pour être offert maintenant. Pourquoi l'Écriture dit-elle que Élie doit venir premièrement ?» Il a dit, « Il est déjà venu, et vous ne vous en êtes pas aperçu. Et avec le Fils de l'homme, ils feront la même chose. » Mais Jean, il a dit, a fait exactement ce qu'il devait faire. Et ils lui ont fait exactement ce qu'ils étaient censés faire. Et il a dit, « De même, le Fils de l'homme doit souffrir. » Mais il n'y a probablement même pas le tiers de toute la race juive qui a jamais su que Jésus-Christ était sur la terre. Ils avaient peut-être entendu dire qu'il y avait un fanatique là-bas, quelque part, mais ils n'y ont prêté aucune attention. Ils ont simplement continué leur chemin. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, voilà ce qui me porte à croire que même... Pourtant, il n'était pas dit qu'il viendrait secrètement, mais l'enlèvement, ce sera un secret. Alors, si cela s'est fait tellement en secret quand il est venu, à combien plus forte raison l'enlèvement va-t-il se faire sans qu'on le sache? Voyez? Ils ne s'en apercevront pas. Tout à coup, ils vont dire, « Mais je pensais qu'on devait avoir un enlèvement. Et voilà tous ces jugements sur la terre. » Il dira, « Il a déjà eu lieu, et vous ne vous en êtes pas aperçu. » Voyez? Ce sera tellement, exactement comme un voleur dans la nuit. Comme ce livre que j'ai déjà lu. Il s'appelle comment déjà? Roméo et Juliette. Est-ce que c'était ça? Ou quelque chose comme ça? Il avait dressé une échelle contre la maison. Je ne sais trop comment. Jéhoub, ça fait longtemps. Il est venu chercher ça, la prendre pendant la nuit. Or, c'est comme ça que cela arrivera. Et ce sera du passé. Ce n'est pas de faire descendre une bande d'anges avec des pelles pour ouvrir les tombes. La Bible a dit que nous serons changés avant même de pouvoir battre des paupières. Juste un clin d'œil, et ce sera terminé. Aussi vite que ça. On dira simplement, quelqu'un a disparu. Eh bien, j'imagine que si nous cherchions dans le monde entier aujourd'hui, nous verrions qu'il y a 500 personnes qui disparaissent de la terre tous les jours. Vous voyez, on ne sait plus rien d'elles. Elles sont simplement portées disparues. Eh bien, il n'y aura pas un bien grand nombre de personnes qui partiront dans l'enlèvement. Maintenant, je ne veux pas vous faire peur, et je ne pense pas que c'est ça, mais je veux seulement vous dire ce qu'il a dit. D'ailleurs, vous le savez vous-même, ce qui arriva au jour de Noé, où 8 âmes furent sauvées par l'eau, 8 âmes dans le monde entier sauvées par l'eau. Eh bien, vous dites, « Oh là là, ce n'est pas la peine que j'essaye. » Ça montre que vous n'avez pas le genre de foi dont vous avez besoin. S'il n'y en a qu'un, ce sera moi. Amen. Parce que moi, je crois. Voyez, c'est comme ça que vous devez le croire. Voyez-vous, ce sera moi. C'est sûr, je veux vivre tellement près de lui que je sais qu'il va me prendre quand il viendra. Je le crois, c'est vrai. Alors s'il y a, si tous les autres le manquent, moi j'y serai, par sa grâce. En effet, il me l'a promis, et je sais que j'y serai, parce qu'il ne peut pas mentir. Et je sais que mon âme et ma vie rendent témoignage, et que j'essaye de vivre chaque jour comme si c'était celui où il allait venir. C'est pourquoi je serai celui-là. Voilà quels doivent être vos sentiments. S'il y en a 8, je serai l'un de ces 8. S'il y en a 500, je serai l'un de ces 500. Je ne sais pas ce qu'il en est du voisin, mais je veux être l'un de ces 500. Voyez, c'est de cette façon-là qu'il faut le retenir dans votre esprit. Voyez, et si vous ne le retenez pas de cette façon-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre foi. Voyez, vous n'êtes pas encore sûr que vous êtes sauvé. Alors, vous ne faites que le supposer. Ne faites pas ça. Bien. On n'arrivera jamais à ce saut, n'est-ce pas? Bien. Chaque soir, je veux... J'espère que ça ne vous dérange pas que je prenne de votre temps. Nous pourrions terminer un peu plus tôt. Il n'y a pas tellement... Quand il s'agit de révéler ces sceaux, souvenez-vous, en réalité, il n'y a qu'un seul verset. Le premier en fait l'annonce, c'est le deuxième verset. Presque tous les commentaires et tout, quand on les lit ou qu'on lit les opinions émises, et je l'ai toujours cru, comme la plupart d'entre eux, que ce premier cavalier, c'était l'Église primitive. Mais quand le Saint-Esprit l'a révélé, c'était absolument le contraire. Et donc, alors, tout ce que cela fait, c'est de montrer ce qu'il en est. Et alors, j'essaye, maintenant pour moi, ceci, c'est très sacré. C'est pour cette raison que je préfère répondre aux questions. Et arrangeons-nous pour que ce soit compris de façon claire et nette par chacun, et que ceux qui écouteront les bandes aussi, qu'ils le comprennent, là. Voyez, chaque soir, j'essaye de reprendre un peu le contexte, pour que les gens, quand on se précipite et qu'on se bouscule pour entrer, et il ne faut pas faire ça, voyez. Mais ça arrive, ça, c'est humain. Il fait chaud dans la salle et on s'impatiente. Mais vous avez été très, très gentils. Dans ce tabernacle, je n'ai jamais vu les gens se comporter aussi bien que pendant ces réunions. Assis tranquilles, et les mères emmènent leur bébé à la nurserie quand ils se mettent à pleurer, et tout s'est très bien passé. Mais j'essaye de reprendre le contexte jusqu'à ce que je sente l'onction de l'Esprit sur moi pour dire ces paroles, pour dire ce qui m'a été révélé. Et alors, si j'ai à un certain moment, si j'ai fait une erreur quelque part, sûrement qu'ici, devant tout le monde, il la corrigera pour moi. Je veux que ce soit, je veux que ce soit juste. On n'a pas besoin de prendre ce qu'on imagine, simplement. Il y a quelque chose qui est juste et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que Dieu nous donne ce qui est juste. Bon, donc, nous avons pris ces cavaliers dans l'ordre de leur apparition. Le premier cheval, là, nous avons vu que c'était l'Antichrist qui est allé de l'avant. Et puis, hier soir, nous avons vu que ce même personnage qui est sorti en tant qu'Antichrist, comme cheval blanc, nous l'avons retrouvé avec une épée hier soir. Il était à cheval et il tuait les gens. Or, il y a toujours le naturel et le spirituel. Et pour le bien de l'Église, je veux donner un type, juste avant d'arriver à l'ouverture de ce sceau. Et ce qu'il m'a donné, je l'ai noté ici. J'ai noté plusieurs passages des Écritures ici, j'en ai 7 ou 8 pages, et je m'y référerai en cours de route. Remarquez, je veux présenter un type de l'Église et le montrer si clairement que vous ne pourrez pas faire autrement que de le voir. Voyez? Bon, il y avait une épouse naturelle dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez, hier soir, cette épouse naturelle, c'était la petite chérie d'Adam, mais pas encore sa femme, parce qu'il ne l'avait pas encore connue comme sa femme. Tout comme Marie était la femme de Joseph, mais il ne l'avait pas encore connue. Elle se trouva enceinte. Voyez? Maintenant, avant qu'Adam ait connu sa femme, elle était juste une épouse pour lui. Très bien. Et nous avons vu que Dieu, elle est tombée dans le jardin d'Éden parce qu'elle n'est pas restée attachée à la parole de Dieu. Or, il savait que Satan serait relâché au milieu d'eux. Alors, il leur a fourni un lieu derrière lequel rester pour qu'ils s'y retranchent. Eh bien, là, le meilleur lieu de fortification, qui peut le connaître mieux que Dieu? S'il cherche à prendre soin de ses propres enfants, si je voulais prendre soin de mon petit Joseph, eh bien, frère, tout, et si je savais que sa vie en dépendait, eh bien, et que j'ai la possibilité de le faire, eh bien, si un mur de béton armé de 12 mètres allait faire l'affaire, j'en ferai un de 27 mètres pour en être sûr. Et si je peux moi-même avoir de telles pensées à l'égard de mon petit garçon, alors que s'il devait perdre sa vie mortelle, je crois qu'un enfant serait sauvé. À combien plus forte raison Dieu à l'égard de son enfant qui serait éternellement perdu? Derrière quoi devrait-il le placer? Il l'a placé derrière sa propre parole. Tant que vous êtes dans cette parole, vous êtes en sécurité. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous n'avez qu'à demander ce que vous voudrez. C'est ça, la parole. Donc, Ève se promenait dans le jardin et elle y a rencontré le serpent, un personnage aux manières très raffinées. Et il a commencé. Or lui, il était de l'autre côté. Dieu vit, demeure, agit dans l'humilité. Jamais autrement. Voyez? Donc, l'humble petite dame se promenait par là. Et Satan est arrivé. Un personnage astucieux, habile, aux manières raffinées. Elle voulait lui vendre son programme. Tant que, peu importe combien Satan pouvait rôder, tant qu'elle restait derrière cette parole, elle était tranquille. Voyez? Alors Satan peut bien faire tout ce qu'il veut. Vous, tenez-vous-en à la parole. C'est tout. Ça ne change absolument rien. S'il dit, tu es malade, par ses meurtrissures, je suis guéri. Eh bien, tu vas mourir. Il me ressuscitera. Il l'a promis. Voyez-vous? Restez simplement derrière la parole. C'est tout. Christ lui-même se retranchait derrière la parole. Il est écrit. Voyez? Donc, restez derrière la parole. Mais Ève, elle a commencé à se relâcher un peu. Mais elle ne s'est pas complètement relâchée. Elle a seulement laissé tomber une seule petite tournure de phrase. Et c'est ce que Satan voulait qu'elle fasse. Il l'a fait sortir de derrière la promesse de Dieu, par le raisonnement. N'essayez jamais de raisonner la parole de Dieu. Croyez-la, c'est tout. Voyez? Donc, elle est sortie de là. Et avant même qu'Adam ait pu aller vers elle, pour la posséder comme femme, elle avait déjà été souillée par Satan. Et avez-vous remarqué? Christ a fait la même chose. Exactement. Or, pour racheter, Dieu devait être là le premier. Avez-vous remarqué? Marie, avant qu'elle vienne vers Joseph, le Saint-Esprit était déjà venu à elle. Amen. Voyez, c'est de là que le Rédempteur est venu. Bien. Maintenant, remarquez, la femme naturelle est tombée et Dieu a pourvu d'un moyen de la racheter. Bien qu'elle soit tombée, il a pourvu d'un moyen. Or ça, c'était la première épouse sur la terre qui est tombée avant que son mari et elle soient mariés. Elle est tombée pour avoir raisonné au lieu de s'en tenir à la parole. Elle est tombée. Et elle est tombée dans la mort, la séparation éternelle. Elle a entraîné avec elle son mari et tout ce qu'il y avait sur la terre. Elle est tombée. Bon, mais Dieu, plein de miséricorde, a pourvu d'un moyen de racheter cette femme. Et là, il lui a promis, il lui a dit qu'à un certain moment, dans l'avenir, la vraie parole reviendrait à elle. La vraie parole se ferait connaître à elle. Maintenant, souvenez-vous de ça. En effet, il a promis Christ à travers la femme. Et Christ est la parole. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Vous voyez? Et elle a habité avec nous. Dieu a habité avec nous dans la chair. Il était la parole. Avant d'être une parole, c'est une pensée. Et une pensée doit être créée. Très bien. Donc, les pensées de Dieu sont devenues création quand elles ont été prononcées par une parole. Ainsi, quand il vous présente cela sous forme de pensée, sa pensée, et qu'elle vous est révélée, alors elle reste toujours une pensée jusqu'à ce que vous la prononciez. C'est pourquoi Moïse est allé prier. Cette colonne de feu était autour de lui, et il a dit, « Va, dirige ton bâton vers l'Orient, et dis, fais venir des mouches. » Il n'y avait pas de mouches, mais il est allé, il a levé son bâton, et il a dit, « Qu'il y ait des mouches !» Il n'y avait encore aucune mouche. Il est reparti. Mais les paroles, la pensée de Dieu avait été prononcée. Maintenant que c'est une parole, cela doit arriver. Là, vous voyez ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Si vous dites à cette montagne, pas si je le dis, mais si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et je peux m'imaginer que, du temps de Moïse, tout à coup, une grosse mouche verte a commencé à bourdonner. Et au bout d'un moment, il y en avait 2,5 kilos par mètre. Voyez, d'où sont-elles sorties? Dieu les a créées. Vous voyez, n'est-ce pas, comment, ce soir, Dieu peut détruire le monde avec des moucherons, s'il le veut. Eh bien, il pourrait empiler des moucherons jusqu'à la lune. Tout ce qu'il aurait à faire, c'est de dire qu'il y ait des moucherons jusqu'à la lune. C'est aussi simple que ça. Aucun produit chimique, ni rien, et il se multiplierait, et se multiplierait, et se multiplierait. Voyez, il peut faire ce qu'il veut. Il est Dieu, le Créateur. Tout ce qu'il a à faire, c'est de le prononcer. C'est vrai, il est le Créateur. Or, si seulement nous pouvions prendre conscience de sa grandeur, voyez, il fait ce qu'il veut, c'est tout. Il est assis là-haut et il regarde les gens, et ces petits éducateurs qui sont là à faire les malins. Et Dieu n'existe pas, et tout. Mais c'est comme si on était revenu au temps de Babel. Babel, plutôt. Donc, nous voyons que Dieu a dit à Ève que, bien longtemps après, la parole reviendra à toi. Or, comment est-elle tombée? Je veux que mon auditoire le dise. D'où est-elle tombée? D'où Ève est-elle tombée? De la parole. Pas vrai? De la parole. Et Dieu a dit qu'il pourvoirait d'un moyen de la racheter et de la ramener à la parole. Très bien. Bien longtemps après, la parole se ferait connaître à elle. Très bien. La parole allait venir dans un seul but, là. Maintenant, retenez bien ce que je suis en train de dire. La parole allait venir à elle dans un seul but, celui de la rédemption. Très bien. Mais en attendant, elle a eu un substitut qui devait agir jusqu'au temps où la parole originelle viendrait. Bon, vous comprenez bien ça? Voyez, il lui a dit que la parole reviendrait à elle, mais en attendant, il lui a donné un substitut, en attendant que ce temps arrive. Donc, il lui a donné une offrande à présenter, un substitut pour ce sang. Or, c'était du sang de taureau, de brebis, de bouc, et ainsi de suite. Mais il n'ôtait pas son péché. Voyez, il ne faisait que couvrir son péché. Il ne l'enlevait pas du tout. Il le couvrait. En effet, c'était le sang d'un animal. Et dans le sang d'un animal, il y a une vie animale. C'était un substitut. En attendant que le vrai... Maintenant, revêtez-vous du manteau de l'esprit. Le vrai sang humain, comme celui des êtres humains, devrait être... C'est incarné, Dieu, sans relation sexuelle, à travers une vierge. La naissance virginale a produit ça. Donc, la parole de Dieu, la promesse, est devenue sang. Et elle s'est incarnée dans la personne de Jésus-Christ, le Sauveur. Le sang des taureaux, des boucs, et ainsi de suite. Mais attendez, là, ici Dieu a fait la promesse. Il a dit que c'est là qu'elle reviendrait, que sa postérité écraserait la tête du serpent. Maintenant, si sa postérité était venue comme d'Adam, ou si elle était venue comme du serpent, et tout, ce serait encore une postérité du péché. Voilà pourquoi Jean pleurait. Il n'y avait aucun homme, parce qu'aucun homme, ils étaient tous de l'autre côté du fossé, de l'abîme. Mais il viendrait un temps où ce substitut, ce sang d'animal serait éliminé. Quand le vrai sang incarné allait venir, Dieu fait chair et sang. La Bible dit, 1 Timothée 3:16, sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair. C'est vrai, la naissance virginale a accompli cela. Or, le sang des moutons et des boucs couvrait le péché, mais il ne l'effaçait pas, car c'était du sang d'animal. Seulement, il ferait l'affaire, il servirait de substitut. D'ailleurs, ils s'y sont très bien habitués à ce substitut. Et donc, ils ont simplement continué comme ça. Et quand la vraie parole promise a été manifestée en Jésus-Christ, qui a prouvé qu'il était le Fils du grand Créateur, Dieu, et il a été lui-même confirmé en ce qu'il était la parole vivante de Dieu. Oh là là! Il a prouvé qu'il l'était. Il pouvait créer par la parole. Il n'y a pas un seul être humain, ni rien au monde qui soit capable de faire ça. Il n'y a rien sur cette terre qui soit capable de créer, sauf Dieu. Le diable ne peut pas créer. Il est un pervertisseur de ce qui a été créé, mais il ne peut pas créer. Le péché, ce n'est que la justice pervertie. Vous savez ce que je veux dire. Un mensonge, c'est quoi? C'est la vérité déformée. Voyez, un adultère, c'est quoi? L'acte juste est légitime, perverti. Tout ce qui est péché, le péché, c'est seulement la vérité pervertie. Donc, il ne pouvait pas créer. Mais Christ, quand il est venu, il a prouvé qu'il était le Créateur. C'était là le sang qui avait été promis. Maintenant, si vous voulez le lire, vous... Prenons-le donc un instant. Nous allons prendre le temps qu'il faut là-dessus, de toute façon, ce soir. Ça me met sous tension. J'ai l'impression que les gens veulent tous rentrer chez eux, vous savez. Et alors, c'est... Maintenant, prenons acte 2. Merci. Et nous allons... Acte 2. Et nous allons voir si c'est vrai ou pas. S'il a été prouvé qu'il était Dieu. Très bien. Prenez acte 2. Et là, prenons le verset 22, alors que Pierre est en train de parler le jour de la Pentecôte. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et le signe qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Un homme dont il était rendu témoignage qu'il était Dieu parmi vous. Les choses même qu'il a faites ont prouvé qu'il l'était. Voilà Pierre devant le Sanhédrin et il leur dit, Nicodème aussi le savait, il a dit, « Rabbi, nous savons tous que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire ces choses s'il ne vient de Dieu. » Voyez? Il le savait. Alors pourquoi? Maintenant, regardez bien. Or, Ève avait reçu cette promesse, mais quand... L'épouse, là, qui est venue après, elle a refusé, quand la vraie parole est venue à elle. Ainsi, cette femme a refusé de reconnaître cette épouse israélite. En effet, elle était l'épouse de Dieu. Il l'a répudiée, il a divorcé d'avec elle, pas vrai? Elle était l'épouse de Dieu. Vous dites, mais il n'était même pas encore marié. C'est vrai, mais Joseph, il a répudié Marie avant, il allait répudier Marie avant qu'il soit marié. Vous voyez, il était fiancé avec elle. Et quand il est venu avec la parole qu'il avait promise, qu'il est venu pour les noces, il l'a trouvée tellement attachée à ses substituts, au point qu'elle n'a pas voulu accepter la vraie promesse qui avait été faite, la parole, Christ. Vous ne saisissez peut-être pas. Bon, permettez-moi de recommencer. Je veux que vous le saisissiez, voyez-vous. Elle avait reçu la promesse, l'épouse, Ève, qu'il y aurait un rédempteur. Son rédempteur serait la parole. Et quand la parole est venue, qu'elle a été faite chair, elle l'a rejetée. Il lui avait été donné des substituts. Maintenant, retenez bien ça. Substituts. Il lui avait été donné des substituts pour continuer en attendant que le Rédempteur arrive. Et quand le Rédempteur est arrivé, elle voulait continuer avec son substitut et elle a rejeté la vraie parole. Vous le voyez? Ça, c'était l'épouse israélite. Il a fait la même chose quant à la deuxième Ève, l'épouse, la mère de toute vie spirituelle. Voyez, Ève veut dire la mère de tous ceux qui sont spirituels, tous ceux qui sont vivants. Ève, mère de tous ceux qui sont vivants. Bon, et quand il est venu vers l'épouse israélite, elle était la mère de tous les vivants, mais elle l'a rejetée. En Éden, l'Ève naturelle est tombée en écoutant le raisonnement de Satan contre la parole de Dieu. C'est comme ça qu'elle est tombée. Oui, monsieur. Elle est tombée parce qu'elle a fait ça. L'Ève spirituelle, c'est-à-dire l'Église, l'épouse de Christ, elle est tombée, non pas en Éden, mais à Rome. Voyez-vous, au Concile de Nicée, c'est là qu'elle a rejeté. Cette église de Pentecôte qui est allée à Nicée et qui a écouté le raisonnement de Rome, au lieu de rester attachée à la parole, elle est tombée. Et tout, après elle, est mort avec elle, autour d'elle. Donc, comme l'Ève naturelle était tombée, l'Ève spirituelle aussi est tombée. L'épouse de Dieu est tombée dans le jardin. L'épouse de Christ est tombée à Rome. Voyez, Remarquez, par ce même raisonnement contre la parole de Dieu, elle aussi abandonné à Satan les droits de sa vertu. Et nous avons vu par l'ouverture de ses sceaux que c'était Satan et que c'est encore Satan qui est là-bas. La Bible dit que c'est le trône même de Satan. Et de même qu'Ève a perdu les droits de sa vertu et qu'elle les a abandonnés à Satan dans le jardin d'Éden, l'Église, l'épouse de Christ, a fait la même chose à Rome en renonçant à la Bible pour prendre leurs dogmes et leurs raisonnements. Vous voyez comme c'est bien typifié? En suivant les types, on ne peut pas se tromper. Si ma main a l'air, si je ne m'étais jamais vu et que je vois approcher mon ombre, j'aurais alors une bonne idée de ce que je peux avoir l'air. Voyez? Mais c'est ça. Si vous voulez voir ce qui va arriver, regardez ce qui a été. Car toutes les choses anciennes étaient l'ombre des choses à venir, dit la Bible. Très bien. Ainsi, elle a perdu sa parole vertueuse, la parole de Dieu, quand elle a vendu la Bible et qu'elle a mis là un homme qui dit que l'Église a le droit de changer tout ce qu'ils veulent. Et ils l'ont fait. Et à Nicée, l'épouse de Christ, l'épouse de Pentecôte, a vendu sa vertu. Tout comme, dans le jardin d'Éden, Ève avait vendu sa vertu à Satan. Exactement. Bien. Dieu a promis cette église de Pentecôte, il savait qu'elle ferait ça. Comme il l'avait promis à Ève, Dieu a promis. L'église de Pentecôte, croyez-vous qu'elle a vendu son droit d'aînesse avant sa vertu quand elle a renoncé là-bas? Le croyez-vous? Elle, certainement qu'elle l'a fait. Alors, à quoi peut servir un credo qui n'est pas basé sur cette Bible? J'aimerais que quelqu'un trouve ce qu'ils appellent le credo des apôtres, ou même un seul mot de cela dans la Bible. C'est un credo catholique, pas un credo des apôtres. Lisez Actes 2, 38. Voilà le credo des apôtres, s'il en a un. Oui, voyez, bon, c'est ce qu'ils utilisaient tout le temps, en tout cas. Alors, si vous... Voyez, alors ils ont vendu leurs droits d'aînesse. Et ce n'est pas tout. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes et tous les autres ont fait pareil. Elle a formé une dénomination. C'est Rome qui lui a fait faire cela. Elle a formé une dénomination et elle a mis un homme à la tête. Et les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, tous, ils ont fait pareil. Ils ont mis un groupe d'hommes à la tête. Peu importe ce que Dieu dit, vous devez le faire de la façon dont eux disent de le faire. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Rien d'autre que de la prostitution spirituelle. La mauvaise sorte de femme. Oui, monsieur. Des credos mensongers, faits de main d'homme. Alors, quand elle a fait cela, elle est devenue... Maintenant, je vais le prouver. Elle est devenue une prostituée aux yeux de Dieu. Croyez-vous que la Bible dit? Oui, monsieur. Ses filles ont fait pareil. Maintenant, dans Apocalypse 17, si vous voulez le noter, Jean a été ravi en esprit et il a vu une grande prostituée assise sur, et nous l'avons lu hier soir, et il y avait là les sept collines, et exactement ce qu'elle avait fait. Elle avait transmis au monde la souillure de ses fornications, pas vrai? Et tous les rois de la terre avaient commis fornication avec elle, de la tromperie, du vol, du mensonge, acheter leur repentance et des neuvaines et tout le reste. Eh bien, maintenant, souvenez-vous, elle avait des filles. Eh bien, s'il est devenu un corps qui relève d'un système organisé, dans ce cas-là, le système tout entier est faux. Et si Ève, en désobéissant à Dieu, a précipité dans la mort tout ce qui relevait d'elle, de même chaque Église, en s'organisant, entraîne dans la mort tout ce qui relève d'elle. Exactement. Toute la chose est condamnée. C'est tout à fait conforme à la parole, ici. Lisez Apocalypse 17. Et la Bible a dit qu'il la brûlerait au feu et tous ses enfants avec elle. C'est vrai, ce qui veut dire que tous les systèmes organisés vont brûler avec la prostituée. Maintenant, je n'y vais pas de main morte. Et je sais que vous allez en entendre parler. Et je veux en entendre parler. Et mais c'est vrai. C'est la Bible qui le dit. Alors c'est forcément vrai. Elle est devenue une prostituée. Vous pouvez le lire dans l'Apocalypse au chapitre 17. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commis fornication contre son propre mari. Eh bien, vous dites, non, Il s'agit de la Bible. La parole, c'est Dieu. Et si vous retranchez une seule chose, voudriez-vous que votre épouse embrasse un autre homme, même si elle s'arrêtait là? Jamais vous ne voudriez qu'elle le fasse. Elle se serait montrée infidèle. Quiconque en retranchera un seul mot ou en ajoutera un seul. Alléluia! Christ veut que son épouse soit pure avec la parole. C'est comme ça qu'elle doit être. En effet, rien, pas un seul iota, pas la moindre partie, ni rien, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra de cette loi, de ce livre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. » N'en donnez pas d'interprétation personnelle. Voilà ce qu'il veut, pur, sans mélange, pas même un flirt. Je ne voudrais pas que mon épouse flirte avec un autre homme. Et quand vous vous mettez à écouter toutes sortes de raisons, en dehors de cela, vous écoutez, vous flirtez avec Satan. Amen. Il y a de quoi vous sentir religieux, n'est-ce pas? Dieu veut que vous restiez pur. Tenez-vous-en strictement à cette parole. Tenez-vous-y. Bien, Dieu lui a promis, comme il avait promis à Ève dans le jardin d'Éden, il a promis à cette dernière Ève, ici, et l'église de Pentecôte, le commencement de l'église elle-même est la mère de tous les vivants, parce que, tant qu'ils en font partie, mais vous voyez, quand ils prennent ses péchés, ils meurent avec elle. Un jeune homme arrive, il dit, « Je veux servir Dieu. » Ils disent, « Eh bien, voici ce qu'il faut faire. Va te repentir. » D'accord, c'est ce que je vais faire. Gloire à Dieu. Et il va se repentir. Maintenant, viens te joindre à nous. Voilà, ça y est. Oui, voyez, le tour est joué. C'est ça. Et il est mort avec eux. Voyez, c'est simplement, c'est ce que ce livre enseigne. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. En effet, c'est ce qui est dit ici. Bien, donc, Dieu lui a fait la même promesse qu'à Ève. Il a dit à Ève qu'il viendrait un temps où la parole reviendrait à elle. Vous vous en souvenez? Ce qu'elle avait perdu se serait rétabli. En effet, il n'y a qu'une chose qui puisse rétablir, c'est la parole. Exactement. Je l'ai déjà dit, tirez un coup de fusil. Si vous manquez la cible, cherchez où vous avez dévié. Il faut revenir là et recommencer, voyez? Et si vous retournez en arrière, remontez jusqu'à Nicée. C'est de là que vous devez repartir, vous voyez? Retournez en arrière, loin de toutes ces organisations, loin de toutes ces églises. Comme nous avons vu parfaitement ces sceaux, toute ma vie, je me suis demandé pourquoi j'étais tellement opposé au système organisé. Pas aux gens, non. Les gens, ils sont comme vous, moi ou n'importe qui d'autre. Mais à ce système dénominationnel. Maintenant, je le vois, ici. Je ne l'avais jamais su jusqu'à maintenant. Et c'est vrai. Dieu a promis à l'Ève spirituelle, comme il l'avait promis à l'Ève naturelle, que la parole lui serait redonnée. Au dernier jour, il redonnerait à l'Église. Il la ramènerait à la parole originelle. Maintenant, soyez très attentifs. Je veux que vous vous en assuriez bien là. Dieu a promis à Ève qu'il viendrait un temps où la parole serait rétablie par sa semence. Cette parole elle-même deviendrait semence. Et quand on lui a donné un substitut, elle s'est accrochée à ce substitut. Et quand la parole est venue à elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Je n'en veux pas. C'était trop humble. Elle voyait ça d'un mauvais œil. Ce n'était pas assez raffiné. Une étable? Oh là là, là là. Un homme comme ça, qui n'a jamais été un seul jour à l'école? Voyons, je ne peux pas accepter cela. Ce n'est pas le Messie. Un homme qui laisserait les autres lui marcher sur les pieds comme ça? Et on appellerait cela le Messie? Il les a laissés lui bonder les yeux et le frapper à la tête. Et il disait qu'il était prophète, qu'il était un vrai prophète qui avait été suscité. En fait, il ne connaissait pas les prophètes. Jésus l'a dit. Il a dit, si vous aviez connu les prophètes, vous m'auriez connu. C'est vrai. Maintenant, remarquez, mais quand la parole est venue à elle, de la façon, exactement de la façon dont Dieu avait dit qu'elle viendrait, elle se l'était interprétée autrement. Je parle de l'épouse juive, de l'épouse israélite. Pour commencer, c'était elle, Ève. Donc, quand la parole est arrivée là, elle n'en voulait pas. Elle voulait rester avec ses substituts. Or, à la Pentecôte, Dieu a promis à l'Ève spirituelle. Il a même annoncé d'avance, 400 ans même avant la chute de l'Église, qu'ils tomberaient et qu'ils feraient ce qu'ils ont fait. Mais il a promis que, dans les derniers jours, il enverrait de nouveau la parole. Jésus a dit la même chose quand il était sur la terre, qu'il l'enverrait de nouveau. Et qu'est-ce qu'elle trouvera? Elle trouvera le même état de choses que quand elle était venue la première fois. C'est vrai. Ils veulent leur substitut. Ils veulent leur dénomination. Ils veulent leur credo. Ils veulent vivre exactement comme ils l'entendent. Et ils veulent, eh bien, je suis un tel. Je suis membre de ceci. Ce que Dieu est en train de faire, combien il peut se manifester, ça ne change rien. Il aura beau ressusciter les morts, il aura beau révéler les secrets des cœurs, il aura beau faire tout ce que la Bible a dit qu'il ferait, ça ne change absolument rien. Si ce n'est pas affilié à mon organisation, ça ne vaut rien. Voyez? Exactement ce qu'avait fait cette épouse israélite. C'est exact. Voyez-vous? Ils ont écouté leur substitut, alors que Dieu leur avait promis la vraie chose. Et quand la vraie chose est venue, ils n'en voulaient pas. C'était trop humble. Or, c'est pareil aujourd'hui, quand cela entre en scène. Maintenant, Dieu a dit dans Malachie 4 qu'il enverrait dans les derniers jours le message qui rétablirait. Joël a dit, « Je vous rendrai toutes les années. » Tout ce que Rome a dévoré, tout ce que les méthodistes ont dévoré, tout ce que les baptistes ont dévoré, de cette branche originelle de la Pentecôte, Dieu a dit, je le rétablirai au dernier jour. C'est vrai. Et il peut nous envoyer cette personne-là qui sera... Dieu n'a jamais envoyé sa parole à autre chose qu'à un prophète. Pas au réformateur, au prophète. Ce n'était pas encore l'heure pour cela. Maintenant, l'heure approche. C'est pour cette raison que nous attendons sa venue. Ce sera tellement humble et tellement doux et tellement... Oh là là! Pensez-vous que ces aristocrates méthodistes, baptistes, presbytériens et pentecôtistes recevront jamais ça? Oh, vous dites, les pentecôtistes? Les pentecôtistes, ce sont les laodicéens, riches et n'ont besoin de rien. Il a dit, vous ne savez pas que vous êtes pauvres. Vous avez beau construire des édifices qui valent des millions de dollars. N'empêche que vous êtes pauvres, spirituellement pauvres. Oh, vous dites, moi je vois tout cela. Vous êtes aveugles. Eh bien, vous dites, Dieu soit béni, je suis vêtu, nu. Eh bien, chez nous, les nôtres, je vous assure, nous avons des séminaires, nous, et vous ne le savez pas. Donc, c'est tout à fait l'inverse. Maintenant, si la Bible a dit que l'église de Laodicée serait dans cet état-là, et personne sur cette terre ne peut nier que cet âge est le dernier, parce que c'est l'âge de l'église de Laodicée, ou le septième âge de l'église, et nous y voilà. Le deuxième mille ans s'achève, il n'y a plus d'âge de l'église. C'est pour cette raison que vous, les frères de la dernière pluie, vous n'avez pas pu commencer une autre organisation. Il n'y en aura plus. C'est vrai, c'est la fin. Amen. Il ne peut plus y avoir d'autres âges de l'Église. Tout est terminé. Mais alors, si le message pentecôtiste était le dernier message? D'ailleurs, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, les trois derniers messages, les trois derniers âges de l'Église, forment la naissance complète. C'est comme quand une femme est en train d'avoir, est sur le point d'avoir son bébé. La toute première chose qui arrive, c'est l'eau. Ensuite, c'est le sang. Ensuite, c'est la vie. Quand Jésus a été mis à mort sur la croix, la substance qui est sortie de son corps pour former la nouvelle, pour former la naissance, quand ils ont percé son côté, du sang et de l'eau sont sortis. Puis, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce qui est sorti de son corps, c'est l'eau, le sang, l'Esprit. Maintenant, c'est dans 1 Jean 5, 7 qu'il en est parlé. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole, qui est Christ, et le Saint-Esprit. Et les trois sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Et il y en a trois qui rendent témoignage où ils sont un, je veux dire. Je faisais erreur là. Et les trois qui rendent témoignage sur la terre, ce sont l'eau, le sang et l'Esprit. Et ils sont d'accord. Vous pouvez être sanctifié sans être justifié, et vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié sans recevoir le Saint-Esprit. C'est tout à fait vrai. Les disciples, dont Jean 17, 17, ils avaient été sanctifiés, et ils avaient reçu le pouvoir de chasser les démons. Mais pourtant, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Voyez? Certainement. Ils ont dû aller jusqu'à la Pentecôte et attendre la venue du Saint-Esprit. C'est là que Judas s'est montré sous son vrai jour. Vous voyez comment cet esprit a fait son chemin à travers la justification, la sanctification. Mais à la fin, il s'est montré sous son vrai jour. C'est vrai. Maintenant, remarquez. Donc, nous voilà au temps de la fin. Et l'Ève spirituelle, tout comme la natte, comme l'Ève israélite avait reçu la promesse, que l'épouse israélite avait reçu la promesse que la parole reviendrait. Et l'épouse spirituelle de la Pentecôte, comme elle est tombée à Nicée, elle a reçu la promesse que dans les derniers jours, la parole reviendrait. Maintenant, vous dites, alors, si vous voulez un autre passage des Écritures, prenez Apocalypse 10 ici, et il est dit, à l'heure, au moment où le ddernier ange, le septième ange, le septième messager, commence à retentir, le mystère de Dieu est mené à terme. Voyez, le rétablissement, le retour à la parole. La Bible dit que ce messager des derniers jours, il les ramènerait à la foi originelle, à la foi des pères. Mais pensez-vous qu'ils reçoivent cela? Non, monsieur. Dans les derniers jours, il rétablirait à nouveau la parole originelle, comme il l'a dit dans Malachie 4. Mais elle avait perdu. Or, elle avait perdu cette parole à Nicée. Ève, elle, l'a perdue en Éden. Ève a rejeté la sienne au calvaire. Et le groupe de Nicée la rejette dans les derniers jours. C'est pareil. Oh là là. Mais quand la parole est venue dans une chair humaine, elle, Ève, l'Église israélite, la mère de toute vie spirituelle, cela, à l'époque, elle l'a rejetée. Elle était tellement morte dans ses traditions et dans ses dogmes qu'elle n'a pas vu. C'est la même chose pour celle-ci. Exactement. Bien. Ils ne le voient pas, lui, la parole vivante manifestée dans la chair, par la parole promise. La parole a promis de faire ces choses. La promesse a été faite qu'il en serait ainsi dans les derniers jours. Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, regardez ce qui s'est passé à Sodome. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Voyez, regardez ce qui s'est passé à cette époque-là. Voyez, or, il a dit que ce serait la même chose, et nous vivons dans ce jour-là. Eh bien, il doit y avoir, j'imagine que je pourrais trouver 600 promesses comme celle-là dans les Écritures, sur le même sujet. Voyez, bon. Mais il la rejette. Elle s'est accrochée à ses traditions et à son substitut, au lieu de... Elle s'est accrochée à ce sang, qui était un substitut, au lieu de prendre le vrai sang. Jésus, la parole, il a dit, quand celle-ci s'est manifestée à elle, que parce qu'elle s'accrochait à ses traditions. Jésus, la parole manifestée, il a dit à l'épouse israélite, parce que vous vous accrochez à vos traditions, vous annulez l'effet de la parole de Dieu sur vous. Elle ne peut pas faire son effet. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels, on n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. Non, 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 monsieur. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église, mais pas de réveil nulle part. Non, non. Là, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Voyez, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra ces sept tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous? Oui, il les enverra. Il l'a promis. Maintenant, regardez bien. Donc, elle était morte. Et maintenant, si les églises voulaient oublier leur credo, oublier leur dogme, pour prendre la Bible, simplement, et réclamer la promesse, alors elle ferait son effet sur eux. Mais vous voyez, Jésus a dit, « Vous, par vos traditions, vous annulez l'effet de la parole de Dieu sur vous. » Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ève spirituelle. Voyez-vous, l'épouse spirituelle d'aujourd'hui, la prétendue, l'Église, elle prend la parole de Dieu et elle ne veut pas l'accepter. Et elle accepte des dogmes à la place. Par conséquent, la parole ne fait pas son effet sur elle. Voyez-vous, parce qu'elle essaie d'injecter son credo à la parole et ça ne marchera pas. Maintenant, ce qu'il nous faut aujourd'hui, je vois constamment là, dans le héros de sa venue, et c'est en gros titre, ce qu'il nous faut, c'est la venue d'un prophète. Ce qu'il nous faut, c'est la venue d'un prophète. Et j'imagine que quand il sera vraiment là, ils n'en sauront rien. Simplement, c'est vrai, ça s'est toujours passé comme ça, vous voyez? Il nous le faut, on ne parle que de ça. Il nous faut la venue d'un prophète qui apportera la parole du Seigneur, qui ne reculera devant rien. Nous croyons que la Bible l'a promis. Or, je connais frère Moore et les autres. J'ai mangé chez lui et tout, le rédacteur en chef. Et je trouve qu'il n'y a pas de meilleur homme sur cette terre. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Mais vous voyez, il sait que c'est une nécessité pour nous. Et sœur Moore, c'est une femme vraiment très bien, la pauvre. Et que de sacrifices ils font. Et à mon avis, c'est un des meilleurs journaux missionnaires, le héros de sa venue. Mais on constate qu'il proclame sans arrêt, « Il nous faut un prophète, il nous faut un prophète !» Voyez, oh là là, voilà de quoi il parle. Et puis, nous voilà ici aujourd'hui, et de les voir annoncer, hier et aujourd'hui, à la radio, que, et les églises baptistes, et tout, qu'on ne doit pas se joindre aux catholiques, mais qu'on doit fraterniser un peu avec eux, voyez? Alors qu'ici même, le message est en train d'être proclamé, ici même, de se tenir loin de ce poison-là, voyez? Voyez, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Il ne peut pas y avoir de communion entre la lumière et les ténèbres. Quand la lumière entre, les ténèbres s'en vont. Voyez, ils ne peuvent pas. La plus puissante. Vous ne pouvez pas éteindre la lumière avec les ténèbres, mais vous pouvez chasser les ténèbres par la lumière. C'est vrai, et il est la lumière, et il est la parole. Voyez, donc voilà, on en revient encore au point de départ. Vous ne pouvez pas la faire mentir ou lui faire faire quelque chose de faux. On en revient toujours à ce point-là. Oui, monsieur. C'est comme quand un homme commence, qu'il cherche à vous faire des histoires. Si vous savez où vous en êtes et que vous savez ce que cet homme croit, c'est comme lâcher un lapin dans un enclos après en avoir fermé toutes les issues. Vous n'avez qu'à vous tenir à la porte. Il faudra qu'il revienne là. C'est aussi simple que ça. Voyez, il n'aura pas d'autre choix que de revenir à la porte, parce que c'est le seul moyen pour lui de sortir. Il va essayer de passer la tête par ici, et presque se casser le cou, et il ira là et là. Vous n'avez qu'à rester là à l'observer, et bientôt il va revenir. Voyez, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Tenez-vous-en à cette parole. Vous avez beau proclamer vos credos aux quatre vents, vous ne faites que vous casser le cou partout. Mais il vous faudra quand même revenir à cette parole. Voyez, oui monsieur, voilà tout. Or, vous voyez, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de la parole de Dieu. Parce qu'elle s'est accrochée à ses traditions. Elle a empêché la parole de Dieu de ne pas faire son effet. C'est pareil maintenant pour l'Ève spirituelle. Elle ne veut pas. Elle veut garder ses traditions et s'éloigner de la parole de Dieu. Elle s'accroche encore aux dénominations, à leurs credos et aux traditions de ses anciens, au lieu de prendre la parole de Dieu. Et dans les derniers jours, quand la promesse de la parole lui est présentée, elle ne veut pas l'accepter à cause de ses traditions, comme l'épouse israélite l'avait fait. La vraie parole, bien qu'elle soit manifestée, démontrée, confirmée, elle ne veut pas l'accepter. Et pourquoi donc? Parce que voilà son type. Elle ne peut pas l'accepter. C'est vrai. Elle ne peut pas faire mieux que celle qui la typifiait. Voyez? Et il était prédit qu'elle ferait cela. Alors, comment peut-on empêcher quoi que ce soit? Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est de vous réjouir d'être dedans. C'est tout. D'attendre cela. Très bien. Dieu a promis que, dans les derniers jours, il manifesterait et qu'il lui confirmerait sa parole. Mais malgré tout, elle ne veut pas l'accepter. Tout cela, Dieu le lui a promis par ses serviteurs, les prophètes. Dieu a promis par Jésus-Christ. Dieu a promis par Joël. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachie, Jean. Dieu a promis de façon très précise par Jean, le révélateur, par tous ses prophètes, ce que ce dernier message serait pour elle. Maintenant, si vous voulez les noter, naturellement, vous les connaissez tous. Jésus, Jean 14, 12, et Joël 2, 38, Paul, 2 Timothée 3, Malachie, chapitre 4, et Jean, le révélateur, Apocalypse 10, 17, 1 à 17. Vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Voyez? Et il ne le croit tout simplement pas. Vous savez ce que Jésus a dit quand il a vu quand il a fait ses miracles devant eux et qu'il a prouvé qu'il était Dieu, qu'il a prouvé cela, ce qu'il était en train de faire. Il l'avait fait très précisément. Il a dit, « Oh, toi, Capernaum, qui t'es élevé jusqu'au ciel, si les œuvres avaient été, les œuvres puissantes qui ont été faites au milieu de toi, avaient été faites dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » C'est vrai. Et à Capernaum, tout ce qu'il a fait, c'est de guérir quelques personnes et révéler les secrets de leur cœur. Et il est reparti. Oui, c'est tout. Voyez, ils ne savent pas ce que c'est que des œuvres puissantes. Ils s'imaginent qu'il faut qu'il y ait tout un tas d'activités programmées où tout le monde se lève et le juge fait son discours et l'orchestre joue et les drapeaux flottent au vent et les femmes en grande tenue et on se fait attendre et tous les docteurs en philosophie et les docteurs en droit avec leurs chapeaux haut de forme et leurs cols tournés vers l'arrière et tout le reste. Il faut qu'ils entrent tous. Ça, c'est quelque chose de grand. Dieu dit, ça, c'est de la folie. Et il suscite un petit rien du tout, qui sait tout juste différencier les lettres de son alphabet peut-être, pour accomplir quelque chose qui va tout simplement enflammer la vraie Église. Et les autres sont là à dire, c'est une bande exaltée. Dieu appelle cela grand, mais le monde appelle cela de la folie. Le monde appelle cela grand, mais Dieu appelle cela de la folie. Vous voyez, c'est tout à fait l'inverse. Voyez. Et la chose que Dieu a promise, Dieu l'accomplira, et il l'a accomplie. Voyez, voilà où nous en sommes. Donc, encore là, elle reste la même, l'Ève israélite. Elle a tout simplement refusé de l'accepter. Vous pourriez ressusciter les morts, vous pourriez voir l'Esprit de Dieu. Jésus est venu, il a confirmé qu'il était le Fils de Dieu. D'abord, il s'est mis à prêcher. Eh bien, ils ont pensé, eh bien, c'est un assez curieux personnage. Mais qui est-il donc? Eh bien, tout de suite, les gens se sont mis à dire. Bien entendu, ils l'avaient dit avant, quand son précurseur était venu, Jean. Ils avaient dit, « Es-tu le Messie ?» Il a dit, « Non, mais il est quelque part au milieu de vous. » Oui. Voyez, pourquoi? Il savait ce qu'il devait faire quand son message serait là. Il savait ce qu'il allait faire. C'est comme Noé qui observait constamment Enoch. Quand Enoch est parti, Noé a dit, « On ferait mieux de se rapprocher de l'arche. Le temps est proche. » Noé observait constamment Enoch, voyez. Et Jean attendait de voir le signe que Jésus lui avait dit ou que Dieu lui avait dit d'observer. Il a dit, « Il est ici même, en ce moment, quelque part au milieu de vous. Je ne le connais pas, mais je le reconnaîtrai. » Quand ils se tenaient là, ils ont dit, « N'es-tu pas le Messie ?» Ils ont dit, « Nous avons été envoyés par notre quartier général. » Oui, ils ont dit, « Les anciens et les autres nous ont envoyés ici. Si tu es le Messie, pourquoi ne viens-tu pas te faire connaître chez nous, plutôt qu'ici, au milieu de cette bande de je ne sais quoi ? Viens te faire connaître chez nous. » Il a dit, « Je ne suis pas le Messie. » Il a dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Ça leur a passé complètement au-dessus de la tête. Ils ne savaient rien là-dessus, voyez-vous. Et pourtant, ils attendaient tous sa venue. Mais ça ne pourrait pas être un gars comme lui. Oh là là, ce serait terrible. De quelle école viens-tu? D'aucune. As-tu ta carte de membre? Qu'est-ce que c'est que ça? Voyez, il était loin de Dieu. Il a dit, « Voici ce que j'ai. La cognée est mise à la racine de l'arbre. » Maintenant, c'est tout ce qu'il avait. Il employait des termes de bûcheron, pas des termes de membre du clergé. Vipère, cognée, arbre, et ainsi de suite. Il n'employait pas des termes d'ecclésiastique. Mais Jésus a dit qu'il n'y avait jamais eu de prophète semblable à lui. De ceux qui sont nés d'une femme, jamais il n'en a paru de semblable à lui jusqu'à son jour. C'est vrai, il était plus qu'un prophète. Il était le messager de l'Alliance. Il a servi de lien entre les deux dispensations. Voyez, plus qu'un prophète. Et alors ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas compris. C'était un homme d'un genre assez bizarre. Donc, ils n'en ont fait aucun cas, vous voyez. Ensuite, quand Jésus est arrivé, alors, ils n'allaient pas l'accepter, ça c'est sûr. Ce fils de charpentier, rien de tel. Lui qui avait la mauvaise réputation d'être illégitime. Et il n'est pas question qu'ils allaient voir un tel homme. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il a choisi les gens sans instruction, des pauvres, des pêcheurs, des bûcherons, des fermiers et des prostituées. Et il a laissé de côté les dignitaires. Pourquoi? Qu'est-ce? Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Vous vous imaginez? C'est parce que ces gens-là, eux, ils ont reconnu qu'il était la parole. Maintenant, considérons-les un instant. Voilà un vieux pécheur ignorant qui ne sait même pas écrire son nom. La Bible dit que c'était un homme du peuple sans instruction. Il arrive avec ses poissons, il les dépose par terre. Il va voir pourquoi il y a tout ce bruit là-bas. Mais tout au fond de lui-même, il savait que la Bible disait que le Messie, tous les Hébreux attendaient le Messie, parce que quand il viendrait, il devait se produire un fait biblique. Un grand nombre de messies avaient paru en disant « Je suis celui-là ». Et ils avaient entraîné des centaines de gens à leur suite. Et ils avaient péri et tout. Mais vous voyez, ça avait pour but de détourner du vrai messie quand il viendrait. On a eu des vêtements d'Élie, des manteaux d'Élie et tout le reste. Mais ça c'est seulement pour détourner du vrai quand il sera vraiment là. Vous voyez, c'est vrai. Toutes sortes de gens ont porté des robes, des vêtements, et ils se sont fait ensevelir, enveloppés de toutes sortes de toges, sens devant, derrière, et tout le reste, ça ne fait que confirmer. C'est comme un faux dollar. Ça montre qu'il y en a un vrai quelque part, pourvu qu'on arrive à le trouver. Voyez? Donc, le voilà qui arrive. Bon, les dignitaires se sont présentés là. Ils étaient tellement attachés à leur substitut. Voyons donc, ils ont dit, si le Messie vient, certainement qu'il viendra vers Caïphe. Il viendra dans notre dénomination. Il viendra chez les pharisiens. Les sadducéens, ça, c'est ce que vous pensez. Il viendra chez les sadducéens. Et voilà comment ça se passait entre eux. Vous voyez? Exactement comme aujourd'hui. Bon, mais quand il est venu, c'était étrange. Il est venu, d'une manière tout à fait contraire à ce qu'il croyait. Seulement, il est venu conformément à la parole. Et il ne connaissait pas la parole. Permettez que je le dise réellement, pour que vous, que cela pénètre très profondément. Je veux que ce soit bien saisi. Voilà ce qui ne va pas avec vous aujourd'hui. Voyez-vous, vous ne connaissez pas la parole. Voyez, Jésus a dit, vous savez discerner l'aspect des cieux, mais vous ne pouvez discerner les signes du temps. Il disait, nous avons Moïse. Alors il a dit, si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu. Il ne connaissait pas Moïse. C'est pourquoi il ne savait pas. Tout ce qu'il connaissait, c'est un credo qu'ils avaient concocté. Bon, prenons donc ce brave pêcheur. Il dépose sa corbeille. Il lisse sa barbe grise et il y va. Je pense que je vais aller voir qui c'est. Son frère disait, viens, allons là-bas. Il disait, c'est cet homme, c'est le même. C'est cet homme dont ils ont dit l'autre jour, hier soir, j'ai passé toute la soirée avec lui. Tu te souviens de ce Jean dont je te parlais? Oui, cette espèce de barbare là-bas, oui, j'en ai entendu parler. Eh bien, ce brave Simon, vous savez, il a dit, j'ai entendu parler de lui, là-bas. Oui, il y a déjà 2 ou 3 mois qu'il est là, oui. Eh bien, il a dit, un jour qu'il était là-bas, il a dit une chose bizarre. Il a dit, vous savez, le voilà qui vient à l'instant même. Ils ont dit, comment le sais-tu? En regardant de ce côté-là, il n'y avait là qu'un homme comme les autres. Il a dit, je vois l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. J'entends une voix qui dit, c'est lui, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer. Alors, il est tout de suite entré dans l'eau et il l'a baptisé et tout. Eh bien, là, il a dit qu'il l'avait reconnu. « Oh, je ne suis vraiment pas sûr, » a dit Simon. « J'ai déjà entendu tout ça, bien des fois. » Mais là, il y va. Seulement au fond de son cœur, il y avait une semence prédestinée. Voyez, Jésus l'a dit. C'est vrai. Il s'avance vers lui. Il s'avance. Il s'était dit, « Je vais aller à la réunion pour voir. » Il arrive là-bas. Jésus se tenait là, rien qu'un homme comme les autres. Il s'est avancé. Il a dit, « Eh bien, ton nom, c'est Simon. Et le nom de ton père, c'était Jonas. » Cela l'a démonté. Pourquoi? Cette petite semence de vie éternelle qui était à l'intérieur avait été touchée. Oui, monsieur. Il a dit, « Un instant, là! Comment ça? Tu ne m'as jamais vu. Et tu n'as jamais connu mon papa non plus. Il y a des années qu'il est mort. Mais voilà que tu viens me dire ces choses-là. Or, je sais que la Bible dit... » Maintenant, ça, ce n'est pas se référer à ce que l'Ancien dit. Mais la Bible a dit que le Messie serait un prophète. Le voilà, c'est lui. Un jour, il passait par la Samarie. Il passait par là avec un groupe de Juifs. Il est parti de son côté. Et voilà cette jeune femme de mauvaise vie qui arrive. C'était peut-être une jolie petite dame, vous savez. Elle avait été jetée à la rue quand elle n'était encore qu'une enfant. Elle passait par là. Peut-être qu'elle était en train de réfléchir à quelque chose. Elle est arrivée là et elle a accroché son seau. Et elle le faisait descendre, vous savez, pour puiser son eau. Et elle a entendu un homme qui disait « Apporte-moi à boire !» Elle a regardé autour d'elle et un juif d'âge moyen était assis là. Elle a dit « Dis donc, n'es-tu pas juif? Tu ne devrais pas faire ça. Selon la coutume, tu ne dois pas me parler. Je suis samaritaine. » Il a dit « Mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui m'apporterais, c'est toi qui me demanderais à boire. » Elle a dit « Où est ton seau? Voyez, où est ta corde? » Eh bien, il a dit « L'eau que je donne, c'est la vie. » La quoi? Voyez. Mais elle a dit, voyons, vous autres, vous voulez adorer à Jérusalem. Nos pères, eux, ils ont adoré. Oh, il a dit, c'est vrai, seulement. Il a dit, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Mais il a dit, tu sais, l'heure vient où les hommes n'adoreront ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Il a dit, ils adoreront Dieu en esprit, parce qu'il est esprit, esprit et vérité. Eh bien, elle s'est mise à réfléchir, vous savez, et il a dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Elle a dit, « Mon mari? Je n'ai pas de mari. » Eh bien, il a dit, « C'est la vérité. » Il a dit, « Tu es sorti avec 5 et tu en es maintenant au 6e. » Et il a dit, « Tu en as eu 5. Tu sais, tu as dit la vérité. » Regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière a touché cette semence. Elle reposait là. Elle avait été prononcée par Dieu. Oui, monsieur, la semence était sur la terre. Quand Dieu a écarté l'eau et que le soleil l'a touchée, elle a pointé. C'est vrai, voyez, tout ce dont elle avait besoin, c'était du soleil. Elle avait seulement besoin de lumière. Oui, monsieur. Alors, quand le Saint-Esprit, en lui, a écarté sa vie passée, et la lui a montré, la lumière l'a touchée. Elle a dit, « Monsieur, je vois que tu es prophète. » Elle a dit, « Or, nous savons, moi, je le sais, que le Messie, quand il viendra, c'est ce qu'il sera. Et nous n'avons pas eu de prophète depuis des centaines d'années. Il y a des centaines d'années que nous n'avons pas eu de vrai prophète. » Et elle a dit, « Comment? Tu m'as parlé de mon mari, et tu m'as dit combien j'en ai eu, et tout. » Eh bien, elle a dit, « Je ne comprends pas ça. » Elle a dit, « Quand le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. Mais toi, qui es-tu? » Il a dit, « Je le suis. » C'était réglé. Voyez, une prostituée. Et les sacrificateurs, ils ont regardé autour d'eux. Et ils ont dit, « Mais il faut bien qu'ils disent quelque chose à leur assemblée. » Ils ont dit, « N'ayez rien à voir avec cet homme-là. Il est possédé d'un démon. C'est tout. » Maintenant, voilà la différence. C'est pareil aujourd'hui. Voyez, c'est pareil aujourd'hui. Ça correspond parfaitement. Oui, oui, monsieur. Elle l'a su, parce que la lumière a touché cela. Ils ont vu ces pêcheurs, ces bûcherons, ces paysans, ces péagers, ces prostituées. Eux, ils ont vu en lui ce que les saintes Écritures avaient dit qu'il ferait. Mais les pharisiens ne pouvaient pas voir à cause de leur tradition. Ils ne pouvaient pas voir à cause de leur tradition. Mais la prostituée, les paysans et tous ceux-là, eux, ils ont vu. Tous ceux qui étaient prédestinés. Quand les doutes se sont retirés, la semence a commencé à pousser. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, « Je suis bien contente d'avoir rencontré le Messie. » Oh non, frère. Elle s'en est allée tout de suite dans la ville. Elle n'a plus pensé à son eau. Elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. » N'est-ce pas exactement ce que l'Écriture a dit que le Messie ferait? N'est-ce pas exactement cela? Et les gens pouvaient voir la même chose. Comme Jésus-Christ a annoncé dans Jean 14, 12 que cela arriverait de nouveau, il a aussi annoncé dans Luc, quand il a dit, ce qui arriva au jour de Noé, Dieu qui s'était manifesté dans un homme et qui avait dit qu'il était derrière lui, et ce que Sarah avait fait quand elle avait ri dans la tente. Et tous ces passages des Écritures, dont Malachie et tout, qui ont été prédits pour les derniers jours. Hébreux 4 dit que, quand la parole va revenir, Malachie 4 dit qu'elle reviendra par le moyen d'un homme. Dans Hébreux 4, il est dit, « La parole de Dieu discerne les pensées qu'il y a dans le cœur. » Et ils peuvent le voir s'accomplir et s'en détourner carrément. Leur tradition les empêche de le voir. et on annule l'effet. Eh bien, voilà où nous en sommes. C'est tout. Oui. Vous savez, aujourd'hui, il pourrait faire la même chose. Il pourrait entrer en scène et faire les mêmes choses qu'il a faites à l'époque, comme il a dit qu'il le ferait. Voyez, il a promis de le faire. Il a promis de le faire. Et s'il faisait la même chose, le messager de Laodicée est censé le faire. Et alors, si l'église de Laodicée le voit s'accomplir, ils feront exactement ce que l'église israélite a fait au commencement. Peu importe que ce soit parfaitement bien confirmé. Oh, ils vont le faire quand même. Oh là là. Maintenant, il est dit qu'il en serait ainsi, que nous retournerions à la parole originelle et serions manifestés tels que promis, pour rétablir de nouveau la foi originelle de nouveau. Et s'il s'est fait connaître, qu'il a montré à son peuple qu'il habitait au milieu d'eux en faisant ces choses, il pourrait même se faire photographier, en donner une preuve scientifique. Et malgré tout, il n'y croit pas. Et cela a été prouvé. Il a permis que l'œil mécanique de l'appareil le fixe sur la pellicule, alors qu'il était là, cette même colonne de feu, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13:8, pour le démontrer par la science et de toutes les autres manières scientifiquement dans le domaine spirituel. Cela a été confirmé de toutes les manières possibles. Et vous savez probablement qu'il ferait la même chose, probablement qu'il s'en détournerait carrément, qu'il ferait la même chose que ce qu'eux avaient fait. Oh, que Dieu nous aide. Oh, nous allons nous arrêter ici. Mais que Dieu nous aide maintenant à voir, c'est ma prière, comme nous arrivons maintenant. En effet, je ne veux pas vous garder trop longtemps. Que Dieu nous aide à voir. Je pense que, comme l'Esprit est sur nous, ce serait peut-être le bon moment pour qu'il nous aide à révéler, à ouvrir ce sceau. Lisons. Alors que nous voyons dans quel état se trouve l'Église, que nous voyons ce qui a été, nous avons vu ce qu'ils ont fait, nous avons vu à quoi ils devaient en arriver, et nous voyons que c'en est là, et nous voyons ce qu'ils étaient censés faire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Maintenant, vous voyez où nous en sommes? C'est à vous d'en juger. Je ne peux pas juger. Je ne suis responsable que d'apporter cette parole. À mesure qu'elle m'est donnée, alors je peux l'apporter. Tant qu'elle ne m'est pas donnée, je ne peux pas l'apporter. Personne d'autre ne le peut. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens et vois ». Je regardais et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants la voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin ». Donc, l'agneau a le livre dans sa main et il est en train de briser les sceaux. Il a brisé le premier, le deuxième et maintenant il brise le troisième. Et alors qu'il le brise, que l'agneau le brise, le troisième sceau, le troisième être vivant. Maintenant, combien savent à quoi ressemblait le troisième être vivant? Il était semblable à un homme. Le premier était semblable à un lion, le suivant était semblable à un veau ou à un bœuf et le troisième était semblable à un homme. Comme un homme. Et il a entendu l'être vivant semblable à un homme, a dit à Jean, viens voir ce que c'est. Ce mystère qui était caché, tout au long des années de la rédemption, depuis la fondation du monde, ce qui va arriver, c'était caché sous ce sceau. Maintenant, viens et regarde ce que c'est. Et donc, il l'ouvre, un tonnerre retentit, et l'agneau ouvre les sceaux. Bon, alors Jean s'est approché pour voir ce qu'il en serait. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un cheval noir, et celui qui le montait tenait une balance, ou une balance à plateau, dans sa main. Bon, c'est la première chose qu'il a vue. Quand l'agneau l'a annoncé, qu'il a brisé le sceau, alors l'autre être vivant, vous voyez, les êtres vivants font l'annonce à tour de rôle. Viens voir, et de l'endroit où il se tenait, disons comme ceci, Jean s'est avancé de ce côté-ci. Quand l'agneau a ouvert, il s'est avancé. D'habitude, il y a un coup de tonnerre, comme nous l'avons vu dans le premier sceau. Et il regarde pour voir ce qui va se passer. Et il voit venir un homme, d'abord sur un cheval blanc. Il le regarde aller à cheval. Et jusqu'au bout, Jean le voit jusqu'à la fin. Il le voit venir sur son cheval blanc, il a un arc à la main, et ce cavalier, il n'a pas de flèche. Ensuite, il le voit qui reçoit une couronne, et qui continue à cheval jusqu'à la fin. Et puis, nous voyons là que l'agneau, voilà que cela recommence. Il en ouvre un autre, et il regarde. Maintenant, c'est un cheval roux qui arrive. Ici, cet homme a une épée à la main. Il s'en va à cheval d'un bout à l'autre de l'Écriture, vous voyez, avec cette épée à la main. Et il devait mettre à mort et enlever la paix de la terre. Maintenant, l'agneau ouvre un autre sceau, un autre être vivant, celui semblable à un homme, dit « Viens et vois !» Maintenant, il s'avance pour voir ce que c'est. Et à ce moment-là, voilà un cavalier qui arrive sur un cheval noir. Or, hier soir, nous avons vu que le cavalier qui montait le cheval blanc et celui qui montait le cheval roux, c'était le même. Et la voix dit du milieu des êtres vivants, elle s'est écriée. Vous voyez, là, il est allé voir ce que c'était. Il était dans ces êtres vivants et il a vu ce cheval noir. Et quand la voix du milieu des quatre êtres vivants s'est écriée, une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Voyez, ce cavalier, parlons de lui. Si vous remarquez, le premier cavalier qui il était. Et nous avons vu hier soir, selon les Écritures, que le deuxième cavalier, c'était exactement le même homme. Seulement, il montait un autre cheval. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé de ministère. Voyez, c'est vrai. Nous avons vu que c'était un antichrist et qu'il avait changé de position. Nous avons vu que, quand, au début, ce n'était qu'un cheval blanc, il était une doctrine. Or, nous avons montré chacun d'eux dans les Écritures. Voyez? Maintenant, regardez bien où nous en sommes ce soir, à cet autre âge de l'Église, maintenant. Voyez? Nous en arrivons maintenant au troisième âge de l'Église. Voyez? C'est exactement ça. Le troisième âge de l'Église correspond exactement au troisième cheval. Voyez? Or, le premier âge de l'Église, c'était quoi? Les Nicolaïtes, avec leur doctrine, voyez-vous? C'est le premier. Bien. Et puis, bientôt, cette doctrine nicolaïte a été sanctionnée et approuvée. Elle est passée à l'action. Et ils ont couronné cet individu. Alors, cet esprit, cet antichrist, s'est incarné dans un homme. Voyez? Et nous avons vu que, plus tard, il devient aussi le diable incarné. Le démon s'en va et le diable entre. Et exactement comme l'Église qui est comme ça, l'Église antichrist, elle avance. L'épouse aussi est passée par différentes choses. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et elle continue à avancer, vous voyez, exactement comme ça. Seulement eux, ils ont eu le réveil en premier, alors que l'Église, elle l'a en dernier. Leurs trois premières années, leurs trois premières étapes à eux, ont conduit à l'âge des ténèbres. Ensuite, les troisièmes, trois étapes, c'est l'Église qui sort, à partir de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, jusqu'à Dieu incarné, manifesté parmi nous. Le voilà qui s'introduit comme antichrist, comme faux prophète. Ensuite la bête, et puis il y a l'âge des ténèbres. Et l'Église sort de cet âge des ténèbres. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la parole incarnée, ce qu'il en est maintenant. Et il descend, oui, vous voyez ça? Il descend. L'Église monte, voyez? Ça ne pourrait pas être plus parfait. Oh, c'est de toute beauté. J'aime vraiment ça. Ce cavalier, c'est le même, mais dans une autre étape de son ministère. La première étape, un cheval blanc, voyez-vous, il n'était qu'un enseignant antichrist. Il était contre la parole de Dieu. Et bon, qu'est-ce qui fait qu'on est antichrist? Quiconque nie que chaque parole de ceci n'est pas vraie et doit être enseignée exactement telle qu'elle, c'est un antichrist, parce qu'il nie la parole, et il est la parole. Maintenant, la première étape, le cheval blanc, il n'était qu'un enseignant, mais un esprit antichrist dans sa doctrine et dans son essence. Il était innocent, il semblait bien inoffensif, il faisait simplement son chemin. C'est la façon dont Satan s'introduit. Oh, c'est un fin renard. Il a dit à Ève, il a dit, « Voyons, tu sais, tu es en quête de sagesse, tu ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal. » Il a dit, « Or, si tes yeux s'ouvraient, alors tu saurais ce qu'il en est. » Et il a dit, « Le fruit est très agréable, il est bon, il est agréable à la vue, tu devrais s'en prendre là. Tu ne sais pas s'il est bon ou pas, hein? Non, je ne sais pas, mais Dieu a dit de ne pas le faire. Mais, oh, bon, je sais, mais... Dieu a dit que nous mourions. Il a dit, certainement qu'il ne fera pas ça. Vous voyez, tout cela avec la plus grande douceur. Regardez le résultat. Observez la façon dont cet esprit antichrist a pris naissance au sein de l'Église primitive. Une doctrine nicolaïte. Nikao, conquérir les laïcs. Établir un saint homme. Oh, c'est tout à fait in. Eh bien, tout ce que nous voulons, c'est de la communion fraternelle. Voyons, vous êtes tous dispersés. Personne ne sait où se trouvent les autres. Je pense qu'on devrait former une organisation ensemble, juste pour se distinguer. Vous voyez, on va se rassembler. On devrait former un club. Et c'est bien ce que c'est. L'église chrétienne des méthodistes, ça n'existe pas. Ce n'est pas une église, c'est un club. Celle des baptistes, ce n'est pas une église, c'est un club. Il n'y a qu'une église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et vous y naissez, c'est vrai, par prédestination. C'est vrai, tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Nul ne peut venir si le Père ne l'appelle. Et tous ceux qu'il m'a donnés viendront à moi. Alors c'est ça. L'agneau est assis là, en train d'intercéder, jusqu'à ce que le dernier entre. La petite cloche sonne, et alors il sort pour prendre possession de son bien, voyez-vous? C'est tout. Il emmène son église à la maison, ses sujets, et il jette son ennemi dans l'étang de feu, et tous ses sujets y vont avec lui. Et voilà. Ensuite, nous entrons dans le millénium. Le même cavalier, donc, dans la première étape, il était innocent. Et dans la deuxième, là, son monte un peu, ça occupe un peu plus de place. Dans la deuxième étape, la Bible a dit qu'une couronne lui était donnée. Et ils ont couronné un homme, un surhomme. Vous voyez, ils l'ont couronné. Et là, la Bible ne lui a pas donné le nom de pape. La Bible lui a donné le nom de faux prophète. Pourquoi? Oui, bien sûr, il était forcément un faux prophète à cause de son esprit antichrist qui donnait un enseignement antichrist contraire à la parole originelle. En effet, s'il enseignait des choses contraires à la parole originelle, c'était antichrist. C'était, et la parole, c'est Dieu, voyez-vous, Christ. Bien. Bon, après, nous le retrouvons alors couronné. Et quand il s'est fait couronner, là, il est très innocent, très inoffensif, pas du tout quelqu'un d'important. Mais après, au Concile de Nicée, il a été institué et Constantin lui a donné tous les biens. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, vous voyez, Satan, il lui a donné son trône et son autorité. La Bible dit, nous l'avons vu. Bon, ensuite, ce que nous avons vu, c'est que le diable a toujours été à la tête du pouvoir politique, passé, présent, à venir. Nous trouvons cela dans Matthieu 4, 11. Et maintenant, nous avons vu ensuite que Satan, il détenait déjà le pouvoir politique. Mais ce qu'il cherche à faire, c'est s'emparer de l'Église. Alors, il entreprend de la séduire. Il prend son surhomme, il l'introduit dans une organisation et il le couronne vicaire. Vous voyez, un Christ. Christ agissait à la place de Dieu. Vous voyez, cet homme-là, il est un vicaire à la place de Dieu. Vous voyez, c'est la même chose, à la place de Dieu. C'est ce qu'il est censé être, un vicaire de Christ. Bon, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Satan, il a pris son pouvoir politique qu'il détenait déjà, et il a pris le pouvoir religieux, puisqu'il avait déjà été couronné, et il les a mis ensemble. Et ensuite, il lui a fait une autre couronne, le pouvoir sur le séjour des morts. Et ceux qui sont morts, pourvu qu'on donne assez d'argent, il peut les en faire sortir. Voyez? Alors maintenant, il est un vicaire qui a autorité sur le ciel, sur le purgatoire. C'est le nom qu'il donne à ça. Il n'y a rien de semblable dans la Bible, voyez-vous? Mais il fallait bien qu'il invente quelque chose. La Bible dit qu'il est sorti de l'abîme et qu'il s'en retournera par le même chemin. Et sur la terre, un chef. Maintenant, qu'est-ce qui lui était donné ensuite? D'abord, il avait un arc, mais il n'avait pas de flèche. Mais maintenant, il a une épée puissante dans la main. Maintenant, il peut faire quelque chose. Alors, il saute de son cheval blanc. Le cheval blanc continue sa course et disparaît. Et maintenant, qu'est-ce qu'il enfourche? Un cheval roux de sang. Un cheval rouge sang. Sur celui-là, il y va à fond de train. Oh, c'est sûr. Maintenant qu'il a reçu une grande puissance et une grande épée pour tuer, alors il monte son cheval rouge sang. Dans le deuxième saut, qui a été ouvert hier soir, nous avons vu qu'il avait enlevé la paix de la terre et il s'entretuait. Et son propre martyrologe, celui de l'Église catholique romaine, indique qu'ils ont mis à mort 68 millions de protestants à partir de l'époque de Saint Hippone à partir de Saint Augustin d'Hippone, jusqu'en 1580 et quelques. 68 millions, c'est dans la grande réforme de Schmucker, si vous voulez le lire, ou plutôt la glorieuse réforme, vous voyez. Donc, le martyrologe en rapporte 68 millions quand un de leurs soi-disant saints a reçu la révélation selon laquelle tous ceux qui étaient en désaccord avec l'Église de Rome devraient être mis à mort comme hérétiques. Alors, cela les a vraiment décidés. Oh, il s'est vraiment mis à répandre le sang. Il a sauté sur son cheval blanc, sur son cheval roux, et il est parti. Oh, c'est alors qu'il a reçu une grande puissance. Il a été établi vicaire du ciel et il est adoré comme Dieu. Il est le chef de la terre. L'union de l'Église et de l'État a fait de lui le chef de la terre, lui a donné cette couronne-là. Il peut faire sortir les âmes du purgatoire par les prières. Il peut aussi intercéder. Il était exactement comme Dieu sur la terre, à la place de Dieu. Tout cela lui confère une grande puissance pour tuer quiconque refuse d'accepter ses ordres. Qui va oser le contredire? L'Église ne peut rien dire. Il en est le chef. L'État ne peut rien dire. Il en est le chef. Alors, ils sont morts par millions. Toutes ces petites églises, frères, elles ont été sauvagement détruites. On les a tuées, on les a assassinées, on les a jetées en pâture au lion et tout le reste. Voyez, le dragon, Rome, lui a donné son trône et son autorité. La Bible dit, voyez. Alors, sur son cheval roux, qui est un type, il a foulé le sang des hommes, à tel point que ce cheval, il est devenu rouge. Maintenant, Jean le voit sur un cheval noir. Il a changé quelque chose d'autre. Maintenant, je dois le dire exactement comme ça m'est venu. Et alors, et si ce qui m'est venu ne concorde pas avec le reste des Écritures, alors ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Vous voyez, chacune des Écritures doit... Cela fait partie d'un grand, grand tout, comme ça. L'Écriture doit s'accorder avec l'Écriture. Et tout ce qui est contraire à l'Écriture, si l'ange du Seigneur me disait quoi que ce soit de contraire aux Écritures, je ne le croirais pas. L'autre jour, j'ai dit, là-bas à Chicago, alors qu'il y avait ces centaines de prédicateurs, est-ce que quelqu'un ici était à cette réunion? Bien sûr. À cette réunion, à Chicago, j'ai dit, bon, vous êtes tous là à dire que vous pensiez me faire venir ici pour me prendre en défaut. À peu près le même nombre que ce qu'on a dans cette salle en ce moment. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez contre moi? J'ai dit, il y a trois nuits, le Saint-Esprit m'a montré où chacun de vous se trouverait et que nous ne serions pas dans cette... Demandez à Karl si c'est bien vrai. Et il y avait Hank et les autres. C'est vrai, vous étiez tous là, vous l'avez entendu. J'ai dit, vous en avez contre moi à cause de mon enseignement. Voilà ce qu'il y a. Maintenant, que l'un de vous vienne donc ici, qu'il prenne sa Bible et qu'il vienne se placer à côté de moi et en démontre la fausseté. C'était le groupe le plus silencieux qu'on ait jamais entendu. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, alors, si vous savez que vous ne pouvez pas affronter la parole, laissez-moi donc tranquille. Vous, les docteurs en théologie et tout, vous êtes là à dire, vous vous présentez comme docteur, docteur, docteur. Et moi, je suis un... Oh, frère Woods et moi, on dit un chichaco ou un petit nouveau. Je n'ai pas d'instruction. Je ne suis jamais allé au séminaire ni à l'école. Mais prenez donc votre Bible et venez vous placer ici, à côté de moi. Venez démontrer la fausseté de la semence du serpent, du baptême au nom de Jésus ou de n'importe lequel de mes enseignements. Personne n'a dit un mot. Vous le savez tous, c'était le groupe le plus silencieux qu'on ait jamais vu. Vous voyez, ils passent leur temps à crier comme je ne sais quoi. Bon, maintenant, voilà ce qu'il en est. Je ne suis pas d'avis qu'on doive se disputer avec les gens, mais qu'on s'en arrive au point où ce sont eux qui cherchent à vous y entraîner de force. Et je n'y serais pas allé, mais le Saint-Esprit m'a dit. Il a dit, « Vas-y, je serai à tes côtés. » Je leur avais dit, 3 ou 4 jours avant, vous étiez là, vous avez entendu parler, M. Carlson et les autres, et Tommy X, et ils étaient tous assis là. Et 3 jours avant, j'étais allé leur dire, vous allez être obligés d'annuler votre réservation pour cette salle. Cette nuit-là, il y avait de l'orage. Je tenais une réunion. Il m'a dit, va à cette fenêtre, à cette troisième petite porte là-bas. J'y suis allé et j'étais debout là. Je regardais dehors, comme ça. Il a dit, ils vont te tendre un piège. Ils vont te demander de parler devant l'association pastorale du Grand Chicago. Il a dit, ils vont te tendre un piège sur ton enseignement de ma parole. Il a dit, maintenant, ils vont annuler la réservation de la salle là-bas. Ils n'auront pas celle-là. Ils vont se réunir dans une salle qui est brune. Il a dit, voici de quoi elle a l'air. Je me suis arrêté et je me suis vu dans un coin. J'ai regardé là-bas et j'ai vu. Je les ai tous vus là-bas. J'ai vu tous ces prédicateurs assis là et comment ils étaient. Je les ai tous examinés. Et il a dit, oh, j'ai pensé, dans ce cas-là, je ferais mieux de ne pas y aller, Seigneur, si c'est ce qu'ils ont l'intention de faire. Je ne veux pas les blesser ni rien faire de mal. Il a dit, va, je serai à tes côtés. Et il y était. C'est vrai. Or, vous tous, il y a des gens ici même qui en ont été témoins, qui étaient là-bas et qui savent que c'est vrai. C'est exact. D'ailleurs, vous avez aussi les bandes. Mais c'est ça, vous voyez? Bon, maintenant, voici le mystère qui s'y rattache. Et maintenant, cela, quand cela m'a été révélé tôt ce matin, avant l'aube, alors j'ai vite pris l'écriture et je me suis mis à examiner, à vérifier. C'était bien ça. Jusqu'ici, trois d'entre eux ont été révélés d'une façon absolument surnaturelle. Oui, maintenant, voici le mystère du cheval noir, selon ce qui m'a été révélé. Il a commencé à le monter à l'époque de l'âge des ténèbres. C'est ce que représentait ce cheval de couleur sombre, l'âge des ténèbres, car c'était une époque où il faisait nuit noire pour les vrais croyants qui restaient. Regardez bien, là, dans cet âge de l'Église, cet âge intermédiaire de l'Église, l'âge sombre de l'Église, regardez ce qu'il dit, tu n'as qu'un peu de force. Il faisait nuit noire pour eux, pour le vrai croyant. Maintenant, regardez bien, presque tout espoir avait été ôté à la vraie Église, puisque cet individu dirigeait à la fois l'Église et l'État. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voyez, le catholicisme avait pris la direction à la fois de l'Église et de l'État. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le catholicisme étaient mis à mort. C'est pour cette raison qu'il était sur un cheval de couleur sombre. Et regardez quelle chose sombre il a faite, vous voyez, alors vous saisirez. Et vous, si vous vous y connaissez en histoire, observez ça. Et vous, en fait, vous n'avez même pas besoin de vous y connaître pour savoir ceci. Maintenant, regardez bien. Tout espoir s'était envolé. C'est son cheval noir. Donc, il est arrivé sur son cheval blanc, la ruse. Ensuite, il a reçu le pouvoir, il a enlevé la paix, il en a massacré des millions. C'est ce qu'il allait faire, alors qu'il continuait sa course. Et c'est ce qu'il fait encore maintenant, voyez? Bon, le voici qui s'avance maintenant sur son cheval noir, l'âge des ténèbres. C'était cette époque-là, presque tout de suite après que l'Église a formé une organisation et a pris le pouvoir. Ils ont réprimé tout ce qu'il y avait d'autre. Et il y a eu quelque chose comme des centaines et des centaines et des centaines d'années de cette époque que tous ceux qui lisent sur le sujet connaissent comme l'âge des ténèbres. Combien savent ça? Bien sûr, l'âge des ténèbres. Le voilà, votre cheval de couleur sombre. Il représente l'âge des ténèbres. Donc, tout espoir s'était envolé. Plus le moindre espoir. Tout semblait noir pour le petit groupe de croyants. Maintenant, voilà la raison pour laquelle c'est appelé, c'est représenté par le cheval de couleur sombre. Sa balance, ou sa balance à plateau dans la main. Vous voyez, il crie « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier ». Vous voyez, en fait, ce sont le blé et l'orge, ce sont les éléments de base pour le soutien de la vie naturelle. C'est avec ça qu'on fait le pain et tout. Mais vous voyez, il faisait payer cela. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faisait payer à ses sujets cette sorte d'espérance de la vie qu'il leur offrait. En leur faisant, c'est précisément à cette époque-là qu'il a commencé à leur faire payer les prières. Ils demandaient de l'argent pour prier. Ils le font encore maintenant, les neuvaines. En effet, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il s'emparait des richesses du monde. La balance pesait une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier. Le cavalier, sur le cheval noir, vous voyez, il dépouillait ses sujets de leur argent, alors que la Bible l'a prédit qu'il détient à peu près toutes les richesses du monde. Comme nous le disions hier soir, en parlant de la Russie et tout ça, ils prennent simplement tout l'argent et ils dépouillent les gens de tout ce qu'ils ont, de tout. Alors, voilà. Maintenant, remarquez, vous voyez d'où vient cette vieille pratique de faire des collectes d'argent dans l'Église? Tenez-vous loin de ce genre de choses. Pour construire une organisation, quelque chose de grand, d'un million de dollars, par ici, et vous voyez, quelle est la mère de cela? Merci Seigneur. Oh là là, je suis si heureux. Oui, monsieur. Bien, c'est sa grâce. Voilà tout. Bien, bien. C'était une époque où il faisait nuit noire. Vous le comprenez maintenant? Et le voilà qui fait payer cette sorte de vie, c'est-à-dire l'orge et tout, naturel. ce n'était pas spirituel, là. C'était de l'orge, voyez-vous. Donc, du pain d'orge et du pain de blé. Il faisait payer cette sorte de vie qu'il donnait à ses sujets. Il faisait payer les prières que le prêtre récitait pour faire sortir les gens du purgatoire. Il faisait payer. Maintenant, j'ai tiré cela directement de l'histoire. Il faisait payer. Je pense que c'est des neuvaines. Je pense que tout le monde connaît ça. Une neuvaine, je pense que c'est quelque chose que vous devez faire. Vous savez, un jour de pénitence. Quelqu'un, il fallait faire payer ça. Il était en train d'amener à lui les richesses du monde, à lui-même, à l'Église même. Et il continue sa course. Oh, bien sûr qu'il continue. Oui, monsieur, il continue sa course. Remarquez, voici le beau côté de l'affaire, là. Remarquez, ne fais point de mal à ce vin et à cette huile. Il n'en reste qu'un tout petit peu, là, mais n'y touche surtout pas. Or, l'huile, c'est, symbolise l'Esprit, le Saint-Esprit. Je vais vous donner quelques versets, si vous voulez. Il y a deux passages des Écritures, dans Lévitique 8, 12, alors qu'Aaron, avant d'entrer, il devait être oint d'huile, vous savez. Et dans Zacharie 4, 12, il y a l'huile qui se déverse dans les conduits, et il est dit, « C'est mon Esprit ». L'huile. Autre chose encore, si vous voulez voir, dans Matthieu 14, 25, il y avait une vierge folle, ou plutôt 25:3. La vierge folle n'avait pas d'huile, pas d'esprit. Et dans Matthieu 25, 4, la vierge sage avait de l'huile dans sa lampe. Elle était remplie de l'esprit. L'esprit, l'huile, c'est le type de l'esprit. Oh, gloire! Très bien. Vous saisissez? Très bien. Donc l'huile, c'est le type de l'esprit. Et le vin symbolise la stimulation de la révélation. Oh, j'avais envie de courir dans tous les sens. C'est un miracle que je n'ai pas réveillé tout le quartier, que le Seigneur m'a montré ça. Vous voyez, la stimulation de la révélation. Voyez, dans la Bible, l'huile et le vin vont ensemble, toujours. J'ai pris la concordance et j'ai vérifié. Il y en a une série, là, comme ça, où on voit que le vin et l'huile vont ensemble, tout le temps. Voyez. Quand la vérité d'une parole de Dieu qui a été promise a vraiment été révélée à ces saints qui sont remplis d'huile, alors ils sont tous stimulés. Le vin, c'est un stimulant. Gloire! C'est ce que je ressens en ce moment. Stimulé, il y a de la joie, des cris. Voyez, et à ce moment-là, il produit le même effet sur eux que le vin sur l'homme naturel. En effet, quand la révélation d'une vérité de Dieu est donnée, et que le vrai croyant est rempli d'huile, et que cette révélation est révélée, la stimulation devient tellement grande qu'il lui donne un comportement anormal. C'est vrai, gloire! Vous voyez, c'est justement ce qui leur arrive en ce moment. C'est vrai, ça leur donne un comportement qui semble inconvenant. Maintenant, si vous voulez un passage de l'Écriture pour ça, lisez un peu Acte 2. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la promesse qui leur avait été faite. Quand la totalité de la promesse du Saint-Esprit a été déversée sur eux et que cela a été confirmé de façon conforme aux Écritures. Maintenant, vous voyez, qu'est-ce qui serait arrivé s'ils avaient dit, « Bon, attendez, il nous a dit d'attendre ici pour recevoir notre ministère. » Et qu'au bout de 8 jours, ils avaient dit, « Eh bien, je vais vous dire, les gars, que Marc avait dit à Matthieu, je crois qu'on l'a déjà, les amis. Vous ne pensez pas? Vous voyez, on l'a déjà. Pendant qu'on attend notre ministère, là, on devrait tout simplement sortir, aller prêcher. Il nous a dit de venir ici et d'attendre. Et il y a déjà 8 jours qu'on est là. Eh bien, attendons donc un autre jour. Au bout de 9 jours, voilà Marc qui s'amène, ou peut-être un des autres, Jean, et il dit, « Je crois qu'on ne devrait pas attendre plus longtemps. Je crois qu'on l'a déjà. Pas vous ?» Là, je peux m'imaginer Simon, parce que c'est lui qui avait les clés, vous savez. Un instant, là, les gars. L'Écriture dit quelque chose à ce sujet-là. Il ne nous a pas dit au juste combien de jours attendre. Il a dit, restez là, jusqu'à ce que... Restez là, jusqu'à ce que la prophétie de Joël s'accomplisse, jusqu'à ce que la prophétie d'Ésaïe soit confirmée. Car c'est par des lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Et c'est ici le rafraîchissement, c'est ici le vin qui est déversé. Le vin représente quoi dans la Bible? Des rafraîchissements. Voilà les rafraîchissements qui viennent de la présence du Seigneur. Voyez, il faut que ce soit selon l'Écriture, là. Voyez? Alors, vous voyez, le vin représente la stimulation de la révélation. Et quand le Saint-Esprit est descendu, qu'ils ont vu le feu de Dieu descendre sur eux, oh là là, la stimulation a commencé à les gagner. Et bientôt, ils étaient tellement stimulés que les gens pensaient vraiment qu'ils étaient ivres. Mais ils étaient stimulés par la révélation. Dieu, écoutez bien ceci. La révélation de Dieu, une fois confirmée, quand ils l'ont vue clairement, ils se sont réjouis à cause de cela. Dieu l'avait promis. Et voilà que cela leur était révélé et confirmé. Amen. Il y avait là cet homme qui disait, « Ceci, c'est cela. C'est bien cela. » Et c'était là, confirmé par le même signe que nous avons aujourd'hui. Il y a de la stimulation par la révélation. Voyez? Et alors, il l'avait pour de vrai, là. C'est pour ça que Pierre a pu aller là et dire, « Eh bien, vous, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, écoutez-moi, vous tous, docteurs en théologie, écoutez ce que je vais vous dire. Voyez-vous? Oh, comme c'est merveilleux! Révélez! Révélez! Ça les a tellement stimulés de voir cela confirmé. C'est immanquable. Ça fait toujours ça. Toujours. Quand je vois que Dieu a promis de faire une certaine chose en ce jour-ci, qu'il a promis de briser ses sceaux en ce dernier jour, et vous ne pouvez pas vous imaginer la joie, la gloire. Quand je l'ai vu révéler ceci, de me tenir là et de regarder cela arriver, et de savoir que je pourrais mettre n'importe qui au défi. Il ne nous a jamais dit une seule chose qui ne soit pas arrivée exactement comme il l'avait dit. Et quelle joie j'ai dans mon cœur quand je vois sa promesse pour ces derniers jours, qu'il a promis de le faire. Et voici que je vois cela confirmé et parfaitement vérifié. Vous m'entendez dire, je me sens religieux. Voilà ce que c'est. La stimulation devient tellement grande que j'ai presque envie de faire le fou. Vous savez, la stimulation de la révélation. Bien. Ils ont été tellement stimulés par la révélation qu'ils ont confirmé. Bon, la promesse. Alors là, oh! La joie de la stimulation a éclaté au milieu d'eux, au point que les gens disaient, ils sont ivres de vin nouveau, quand Dieu leur a révélé sa promesse. Et il ne l'a pas seulement révélée, mais il l'a aussi démontrée. C'est ce que j'ai toujours dit. Un homme peut dire n'importe quoi. Oui, il est bien capable de dire n'importe quoi. Mais quand Dieu vient et qu'il confirme cela, or, la Bible dit, si quelqu'un parmi vous croit être spirituel ou prophète, et qu'il dise des choses qui n'arrivent pas, alors ne prêtez pas attention à lui. Ne le craignez pas du tout. Ne craignez pas cet homme-là. Mais si ce qu'il dit arrive, là, c'est moi, vous voyez. Cela vient de moi. C'en est la preuve que cela vient de moi. Et puis, cette petite Samaritaine, alors que l'Écriture avait annoncé que le Messie ferait ces choses, et qu'il était là à faire exactement ce que l'Écriture avait annoncé. Elle a dit, « C'est lui, venez voir un homme. » N'est-ce pas exactement ce que l'Écriture avait dit qui arriverait? Vous voyez, elle a été stimulée par la révélation. Pas vrai? Elle a été stimulée par la révélation quand cela a été confirmé. Voyez, c'est vrai. Elle savait que nous savons que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il viendra, il fera ces choses. Elle avait vu cela. Et il a dit, je le suis. Alors la stimulation a commencé à agir. Et elle est partie en poussant des cris, et elle est allée dans la ville. Elle a laissé là sa vieille cruche et elle est allée dire aux hommes, « Venez voir ». Maintenant, si vous connaissez un peu les traditions orientales, c'était mal pour elle d'agir comme ça. Oui, monsieur. Une femme de son espèce, personne ne l'aurait écoutée. Non, monsieur. Vous voyez, elle était marquée. Et quand elle, si elle était descendue dans la rue comme ça, et qu'elle avait eu ce comportement-là, l'homme de la rue n'aurait pas prêté attention à elle. Mais frère, elle avait une parole de vie, là. Elle était stimulée. Vous auriez beau. C'était comme d'essayer d'éteindre une maison au feu par un jour de grand vent. Oh, quelque chose l'animait. Elle était décidée. Oui, il ne pouvait pas éteindre cela. C'était le feu de Dieu qui brûlait. Oui, monsieur. Elle a dit, « Si vous ne le croyez pas, venez donc là-bas, à la réunion. Je vais vous montrer. » Oui, c'est ça. Oui, oui, monsieur. Et alors, les hommes y sont allés. Et il ne l'a pas refait une seconde fois. Mais il savait que quelque chose était arrivé à cette femme. Elle était changée. Alors, ils ont cru en lui. Oui, monsieur. Ils ont cru en lui. En effet, la foi vient de ce qu'on entend, la promesse de Dieu, la parole de Dieu, et de ce qu'on la voit devenir une réalité. En effet, elle est une semence, et quand elle a été semée, elle va prendre vie. Elle va produire exactement ce qu'elle dit. Sinon, ce n'est pas la semence de Dieu. Ou bien, le semeur ne savait pas comment la semer. Il n'était pas envoyé par Dieu pour semer les semences. Peut-être qu'il était en train de les semer sur une roche, ou quelque chose comme ça. Voyez? Donc vous voyez, quand le semeur sème la semence, Dieu en prend soin. Elle tombe au bon endroit. Vous voyez? Oh là là! Et alors, qu'est-ce qui est dit à ce cavalier en noir? Ne fais surtout pas de mal à mon vin et à mon huile. N'y touche surtout pas à mon vin et à mon huile. Je n'en ai qu'un tout petit peu sur la terre, mais il en reste quand même un petit peu là. Oui. Bon, tu peux bien continuer à peser tout ça, distribuer cette sorte de vie là sur la terre. C'est ton affaire. Tu en payeras le prix au bout du chemin. Seulement, quand tu rencontreras ce vin et cette huile, n'y touche pas. Oh là là! Si tu peux, si tu, autrement dit, voici, si tu en attrapes qui font partie de mon petit troupeau, qui sont remplis de mon huile et de mon vin, tu vois, du vin et de l'huile de la parole pure, tu vois, et que tu as l'intention de les tuer, parce que tu, c'est ce que tu fais. C'est ça que tu fais. Ne les oblige surtout pas à réciter des « Je vous salue Marie » ou à faire quelque chose comme ça, ou à réciter de tes credos. Ne les touche surtout pas. Ils savent où ils s'en vont, car ils sont loin de mon huile. Et en étant loin de mon huile, ils ont le vin de la joie, parce qu'ils connaissent ma parole promise. Je les ressusciterai. Ne fais pas de mal à cela. Ne va pas essayer de les perturber. En effet, tiens-toi loin de cela, c'est tout. Non, tout. Il confirme sa parole et l'exécute. Il savait qu'il ressusciterait. Oh, j'aime vraiment ça. Ils ressusciteront. Et voilà le cheval noir qui arrive. Maintenant, l'âge des ténèbres. Le cheval blanc a passé. Nous avons vu ce qu'il a fait. Parfaitement. Voilà le cheval roux qui arrive. Nous voyons exactement ce qu'il a fait. Voilà le cheval noir qui arrive. Vous voyez, c'est le même cavalier tout le temps. Ses agissements d'un bout à l'autre des âges. Maintenant, nous découvrons qu'il en pesait des mesures et qu'il les faisait payer. Exactement. Le blé naturel, la vie naturelle, c'est de ça qu'il se nourrissait. Mais c'était un symbole, l'esprit, l'huile et la joie du vin. Cette vie spirituelle, ne fais pas de mal à cela. Laisse-la tranquille. Autrement dit, Rome, ne touche surtout pas à cela. C'est à moi, cela m'appartient. Maintenant, il y a encore une chose ici que je voudrais que vous sachiez. Remarquez, ce n'est pas l'un des quatre êtres vivants qui a dit « Ne touche pas à l'huile et au vin ». L'avez-vous remarqué? Les quatre êtres vivants avaient parlé, mais regardez bien. Je vais juste en lire un petit bout ici. Vous voyez? Bon. Mesure, un denier pour un blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal au vin et à l'huile. Maintenant, écoutez bien ceci. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix. Qu'est-ce que c'était? L'agneau! Amen! Ce n'était pas les quatre êtres vivants. C'est l'agneau qui l'a dit. Pourquoi? Il va prendre ce qui est à lui. Cela lui appartient. Il l'a racheté. Voyez ? Amen. Ne touche surtout pas à cette huile. Non, monsieur, pas les quatre êtres vivants, mais l'agneau est celui qui a dit ça. Eh, oh là là, l'agneau, pas les quatre êtres vivants n'ont pas fait cette annonce-là. C'est l'agneau lui-même qui l'a dit. Quand les quatre êtres vivants ont dit, « Viens et vois », alors ils sont allés, et c'est ce qu'ils ont vu. Et il a dit, « Une mesure de blé pour un denier, et pour me, et telle quantité comme ceci, et telle quantité d'orge. » Mais alors l'agneau s'est écrié au milieu d'eux. Il a dit, « Mais ne fais pas de mal au vin et à l'huile. » Oui, c'est vrai. Oh là là, écoutez cela. Ne lui fais surtout pas de mal, mon gars. Ou un jour, tu vas me le payer. Oh là là, 21h30. Eh bien, d'après ce que j'en comprends, et pour autant que je sache, et je le crois de tout mon cœur, voilà le vrai sens de ces trois sauts. Je veux remercier Dieu pour cela. Et je dirais ceci, c'est la révélation qu'il m'a donnée. Il me l'a donnée, m'en a donné la révélation. Et je crois réellement que nous vivons dans les derniers jours. Demain soir, nous allons prendre ce cavalier au cheval de couleur pâle. Et maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Dieu sait que c'est vrai. Je n'en sais absolument rien. Non. J'ai regardé mes vieilles notes d'il y a bien des années. J'ai aperçu frère Graham Snelling tout à l'heure. Il est peut-être sorti. Mais je me souviens quand j'avais prêché ça, ici. Je suis retourné voir ce que j'avais dit il y a bien des années. Un jour, quand je faisais l'étude du livre de l'Apocalypse, j'avais pris les quatre cavaliers en même temps. J'avais dit « un cheval blanc ». C'était l'Église primitive, sans doute. J'avais lu ça dans un livre des Adventistes. J'y avais lu quelque chose. J'ai dit « ça, c'était l'Église primitive qui était partie pour vaincre ». Et le suivant, c'était un cheval noir. J'ai dit « je ne me souviens plus quel nom je lui avais donné à ce cheval noir ». J'ai dit, ou le cheval roux plutôt, j'ai dit, ce cheval, ça voulait probablement dire qu'il y aurait des ennuis en cours de route, ce qui voulait dire qu'il y aurait beaucoup de guerres qui s'y rattacheraient, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, il y aura probablement beaucoup de guerres. J'ai dit, ça doit vouloir dire ça. Ensuite, j'ai dit, le cheval de couleur pâle, ou le cheval noir. J'ai dit, ça veut dire qu'il va peut-être y avoir un temps d'obscurité sur la terre, alors que toutes les étoiles vont cesser de briller. Le soleil va se coucher, et la lune ne donnera plus sa lumière. J'ai dit, c'est probablement ce que ça veut dire. J'ai dit, le cheval de couleur pâle, ça veut dire que beaucoup de maladies vont apparaître. Or, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais ça, c'était l'interprétation que j'en avais donnée à l'époque, parce que j'avais tout simplement fait de mon mieux, du haut de la chair, ici. Mais, oh, j'ai failli dire quelque chose. Bien. Oh, vous verrez. Vous n'avez qu'à observer, voyez-vous. Bon. Oh, quelle joie, n'est-ce pas, de voir l'heure où nous vivons. Quand nous voyons tout cela en train d'aboutir, je songe. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Signe annoncé par les prophètes. Les jours des nations sont comptés. Ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'Esprit. Vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux. Votre rédemption est proche. Oh là là. Les faux prophètes mentent. Ils nient la vérité de Dieu. Que Jésus-Christ est notre Dieu. Le croyez-vous? Mais nous suivrons les traces des apôtres, car le jour de la rédemption est proche. Les hommes rendent l'âme de terreur. Soyez remplis de l'Esprit, vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux, votre rédemption est proche. C'est merveilleux, n'est-ce pas? J'aime ça. La rédemption est proche. Et au temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. La lumière du soir est venue. Oui, c'est en fait que Dieu et Christ sont un. Il est la parole. Oh là là, merveilleux! L'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'armée céleste sera là. Viens au repas. Ce sera un glorieux jour, tous les saints vêtus de blanc. Avec Jésus, festoirons éternellement. Oh, viens souper, le maître appelle, viens souper. Oui, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens souper. Oh, viens souper, le maître appelle, viens souper, mangez de la parole. Oui, festoyer à sa table tout le temps. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as faim, il t'appelle, viens souper. Oh là là, avez-vous faim? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. L'aimez-vous? La note pour « Je l'aime », vous savez. Levons-nous tous maintenant, levons les mains et exprimons-lui nos sentiments. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Très bien, tous en cœur maintenant. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Soyons très respectueux. Nous avons un interprète ici, frère Higginbottom. Je ne sais pas s'il est ici ce soir ou pas. Nous voulons savoir ce qu'il nous a dit. Attendez un instant. Voici. Bien sûr, gloire au Seigneur. Ma foi est portée très haut en Dieu. Vous, vous l'aimez ce soir de tout votre cœur? Oh, louez-le et dites « Merci Seigneur Jésus ». Comme nous te donnons la louange de tout notre cœur, Seigneur. Gloire à Dieu, donnez-lui simplement la louange, tous ensemble, que Dieu soit avec vous.
Remember baptismal services tomorrow night at 6:30, possibly a few minutes before that.